This station is being brought to you via Nullsoft Shoutcast streaming technology. For more information, visit shoutcast.com.
Hi, this is Mike Gallo, the producer for Star Wars Knights of the Republic for LucasArts. And this is Star Wars on Direct.
Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactfigures.com.
Connexion Plus, l'endroit pour la vente, l'échange et le rachat de produits dérivés de Star Wars. Venez nous rencontrer sur la rue sud de Montréal, au 163 Chemin Saint-Jean, à la Prairie. Connexion Plus au 450-659-3411.
Silan.net, c'est les toutes dernières actualités sur l'univers Star Wars. Plusieurs dossiers sur la saga. Des événements et rencontres entre fans. Un énorme forum de discussion. Une radio web à contenu 100% Star Wars, incluant une ligne ouverte en direct. Plusieurs concours ouverts au Québec et en Europe. Et bien plus encore. Ne résistez pas à la tentation du côté obscur. Cliquez sur le www.citlan.net.
Nul besoin de traverser les ponts pour vous procurer vos produits dérivés de Star Wars. Priorité collection à tout ce que vous cherchez et bien plus encore. Venez découvrir nos nouveaux locaux sur la rive sud de Montréal au 2189 Chemin Chambly à Longueuil. Chez Priorité Collection, notre priorité est la vôtre.
450-651-8482.
Star Wars en direct.com vous présente Star Wars en direct.
Jam its transmissions.
A communications disruption can mean only one thing.
Here they come.
The coordinate tractor beam is pulling us in.
You may fire when ready.
Commence primary ignition.
Ok.
Et bienvenue enfin. À Star Wars en direct.
Ouf, petit problème technique encore ici. On était prévu de faire l'émission à 20h, mais partout où est-ce que je l'ai inscrit, j'ai mis 21h. C'est l'entrevue qui est à 21h, désolé tout le monde. Donc, il y a probablement personne qui nous écoute présentement.
C'est pas grave, je suis sûr qu'ils vont nous écouter en reprise. Alors, à tous ceux qui nous écoutent en reprise, bienvenue à Star Wars en direct.
La 34e émission. Faut pouvoir tester les volumes un petit peu parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion. Ok, Guy, c'est limite, hein?
C'est un petit peu haut.
Ok. Bon, la 34e émission, le sujet principal va être le
roman.
Je sais pas, le 15e, 16e, même 17e roman NGO.
Oui, ça serait le 17e roman 17e, de la série NGO.
Qui est Force Heretic Reunion. Et on va parler rapidement après la chronique hyperespace. Peut-être pas de l'histoire si on n'a pas le temps. Mais je vais au moins faire une petite critique, les points forts, les points faibles. Et puis, après, ben c'est bien entendu l'entrevue avec Sean William et Shane Dix. Probablement la dernière entrevue qu'on va faire avec eux. Espérons que non, mais fort probablement.
C'est pas impossible, effectivement.
Et puis, ensuite, on va vous traduire tout ça, comme d'habitude. Et puis, on va finir avec la chronique événements. Aujourd'hui, on a un autre problème technique en plus de celui qui vient de nous arriver, c'est-à-dire que Sébastien, son PC est mort.
Mon datapad est mort.
Exactement, donc...
L'écran de mon datapad a lâché complètement, alors je ne pourrai pas être avec vous sur le chat. Bref, malheureusement, on ne pourra pas prendre des questions pour Shane Dix et Sean Williams sur le chat ce soir.
Il y en a qui...
Désolé.
Je suis présent sur le chat, mais comme je fais l'animation, je ne peux pas écrire en même temps.
Exactement.
Je suis pas multitask.
Il n'est pas multitask. On va voir à essayer de régler ce problème-là d'ici l'entrevue. Il va peut-être y avoir un miracle.
Oh mon Dieu.
Donc,
on va aller immédiatement en pause.
Petite pause musicale.
Petite pause très rapide et on revient avec la chronique hyperespace sur Star Wars en direct. La voix de la communauté francophone de Star Wars. À tantôt.
crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Cette chronique est une présentation de Star Wars en direct.
Ah! Source Delta qui nous attaque.
Ok, on est de retour en ondes à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone, avec plein de problèmes techniques aujourd'hui.
Et j'étais sur le point de dire, il faut que je réécoute le retour du Jedi, alors vous voyez, nos communications sont brouillées par des forces supérieures.
Bon, la chronique hyperespace, qu'on va parler des différentes choses qui se sont passées au tournage de l'épisode 3. Depuis la dernière fois.
Dans les quelques derniers jours, effectivement. Alors, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, la chronique hyperespace dure absolument 5 minutes à partir du moment où on lance le chronomètre. Ceux qui sont avec nous sur le chat, on vous prierait de garder le silence tant qu'au spoiler. C'est aussi simple que ça. Si ça vous tente de parler des spoilers, par exemple, il y a plusieurs chambres. Vous allez dans la chambre numéro 2, ou celle qui est appelée Room 1, et vous allez pouvoir discuter des spoilers. Comme bon vous semble, vous pouvez aussi le faire sur les forums de StarWarsSWEndirect.com ou même de Citlan.net, comme vous le désirez. Alors, le top chrono part maintenant. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement sur Hyperspace? On a eu beaucoup de joie à regarder la super webcam. On a vu plusieurs costumes qui sont passés devant depuis les deux dernières semaines. Il y a aussi, en tant que tel, dans le service hyperespace, une discussion avec Pablo Hidalgo, celui qui est responsable du site StarWars.com, et notre cher ami, comme je le disais plus tôt, Buster Bunny, Rick McCollum. Et voilà, c'était la petite passe drôle de la chronique Hyperspace. Alors, résumé de la discussion avec Pablo Hidalgo. Alors, notre cher ami Pablo a lu le scénario et dit que Vader a vraiment des dialogues qui montrent de quel côté de la force il est. Puis que c'est pas lui qui a la meilleure phrase dans l'épisode 3, ça serait Palpatine. Apparemment qu'il y a plusieurs personnes qui vont le prendre pour mettre ça comme signature dans le forum. Mm-hmm.
Phrase assez drôlement catchy.
Bien hâte de voir ça.
Alors, I am your father.
Exactement.
Again.
On sait qu'il y a une nouvelle espèce qui va faire apparition dans l'épisode 3, mais il est trop tôt pour dévoiler le nom et la race et compagnie. Alors, pour notre cher ami Pablo, la scène la plus dramatique jusqu'à maintenant, celle qui a été cachée par des rideaux noirs, tellement il fallait que les acteurs soient concentrés. Ça doit donc être une scène assez triste, ou une scène où on voyait beaucoup de Natalie Portman nue. On n'est pas certain parce qu'on sur la webcam, on voyait pas.
Ah.
C'était tout noir. Donc, c'est cela. Est-ce que la webcam va continuer de rouler après la photographie principale du film? Mais bien sûr, donc environ dans les alentours du 12 septembre, la webcam va prendre sa retraite des studios de ciné en Australie, puis il y a des très grosses chances qu'elle retourne par avion au Skywalker Ranch pour la post-production. Alors, on va peut-être voir nos amis Simon Chang du Skywalker, mm-hmm. de ILM, qui vont travailler sur le film pendant plusieurs mois.
Ça va être très passionnel, du monde devant des écrans d'ordinateur.
Exactement, mais on va peut-être voir quelques images qui vont être le fun.
Oui, sûrement.
Les photos select pour l'épisode 3 vont commencer justement vers la mi-septembre, lorsque la photographie principale va être terminée. Les quelques 10 dernières minutes du film ont été réalisées. Apparemment que ça va être un rêve devenu réalité pour les fans. J'ai bien hâte de voir ça. La raison pour laquelle Yoda est absent des Sith Diaries est qu'il est fait numériquement sur les scènes filmées. Ils n'ont pas le même impact et la voix de Frank Oz. Sans les images et la voix de Frank Oz. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'en parle pas énormément. On n'a pas notre mopette. Obi-Wan et Anakin auront des nouveaux sabres dans l'épisode 3. C'est ceux de la trilogie originale. On va voir Anakin avec un sabre laser rouge. Vader a juste fait une brève apparition sur le plateau de tournage jusqu'à maintenant. La phrase « I have a bad feeling about this » va de nouveau être utilisée dans l'épisode 3. Pour Pablo, le personnage le plus dangereux de l'épisode 3, c'est Darth Vader. Mmh. Je vous ai fait d'ailleurs quelques mots. I fear not. Ça va être très... J'ai bien hâte d'entendre ça. Aucune version CGI de Vader pour l'épisode 3. Ça, c'est numéro 1. Le nom de Chewbacca va être mentionné dans le film. Et puis, ce qu'on a pu voir, d'ailleurs, par rapport au Wookiee...
Ils disent pas, mais ça va être mentionné en Wookiee.
C'est
Chewbacca en Wookiee.
Ouais. Mais... ce qu'on a vu, par contre, ce que je pense qu'on a vu, c'est le père de Chewbacca,
okay,
sur
ouais,
la webcam avec les tresses. J'ai bien l'impression que c'est lui. On va sauter au Insider maintenant pour le dernier prequel update avec Rick McCollum avant de se jeter dans sa discussion. Alors, est-ce que Chewbacca va livrer les jumeaux à Skywalker, les jumeaux Skywalker à Obi-Wan? Il ne peut rien dire. Est-ce qu'à la fin du film, on va voir Yoda sur Dagobah? C'est vraiment des bonnes rumeurs, peut-être. Anakin perd d'autres membres de son corps, absolument. Pauvre lui, il va se faire castrer dans l'épisode 3. Est-ce qu'on va voir Darth Sidious avec un sabre laser? Peut-être. Si vous êtes gentil, peut-être. On a un résumé de la discussion avec le producteur Rick McCollum qui a eu lieu hier soir maintenant. Alors, v'là deux semaines.
Ouais, c'est ça.
Le fameux Ian McDiarmid, celui qui joue le rôle de Palpatine, va être plus présent dans l'épisode 3, contrairement à son ami, notre cher Christopher Lee Kandoku, qui apparemment, selon des espions de TheForce.net, mourrait dans les 10 premières minutes. C'est triste. 30 secondes à la chronique.
Wow.
On passe en hyperespace. Apparemment que l'épisode 3 va avoir la profondeur émotionnelle de Empire Strikes Back et qu'il y a plusieurs nouvelles planètes. C'est l'un des films les plus ambitieux sur le plan visuel. Ils ont demandé à George Lucas de faire un caméo dans l'épisode 3. Malheureusement, il n'en fera pas. Officiellement, Rick McCollum ne peut pas dire si Tarkin apparaît dans l'épisode 3, mais il ne dit pas non. 3 combats majeurs au sabre laser ont été filmés au moment de la discussion. Il y en a encore avec Obi-Wan sous l'eau. Et oui, Obi-Wan a fait des scènes qui vont être encore mouillées. Dans les prequels, ça a l'air d'être quelque chose de fait. Et on arrive à la fin de la chronique. Bon, 5 minutes de passé. Ceux qui se rejoignent à nous, on va vous avertir qu'on va repartir pour un autre 5 minutes.
Il va falloir vraiment rallonger la chronique.
Je pense qu'on n'aura pas le choix. Il va falloir qu'on la rallonge effectivement cette chronique-là. Alors, pour ceux qui viennent de se rejoindre à nous, on va repartir dans les quelques prochaines secondes pour terminer cette chronique hyperespace. Donc, on vous laisse le temps de rebaisser vos volumes. Maintenant, top chrono. Et on est reparti pour la chronique hyperespace. Donc, vous, il va vraiment falloir qu'on fasse des 10 minutes. Je pense que c'est 5 minutes par semaine, je pense.
Ok, ouais.
Alors, Rick McCollum mentionne que George Lucas fait constamment des changements dans le scénario. Ça doit aider un petit peu à contrecarrer les espions, comme entre autres de The Force et de nous-mêmes. Rick McCollum a dit 3 mots prononcés par Darth Vader dans le film. « I don't fear. »
Sauf qu'ils sont pas dans la même phrase. T'sais.
C'est ça.
« I don't fear. »«
I don't fear. » Beau montage, ça, non? Toutes les blessures d'Anakin seront expliquées dans le film, sauf une. Probablement la cicatrice sur le visage, comme mentionné dans un des 7 diaries. La production présentement 2 jours d'avance. Devront peut-être finir un petit peu plus tôt. L'épisode 3 va répondre aux questions que nous avons, mais il pourrait en créer quelques nouvelles. Par rapport à ça, c'est toutes les questions que les fans ont entre la prélogie et la trilogie originale. La bataille au début du film n'est qu'une bataille spatiale. Il va y avoir d'autres batailles sur des lieux terrestres. Certaines séquences du combat Anakin Obi-Wan ont déjà été filmées. D'ailleurs, ceux qui ont suivi les images de la webcam, vous avez pu apercevoir des flancs de montagne. Peut-être un... Oh, quel timing de musique. Peut-être un présage par rapport à la fin de l'épisode 3. Hayden Christensen va terminer le tournage le 19 septembre. On ne verra pas Camino dans l'épisode 3. Peter Mayhew va filmer les scènes de Chewbacca au mois de mars 2004. Bref, l'an prochain seulement. Le Count Dooku n'utilisera pas 2 sabres dans l'épisode 3 comme les scènes filmées dans Attack of the Clones. Cependant, il y en a une qui en a 2. Et elle est très dangereuse. J'ai l'impression qu'on va la voir dans les bandes dessinées
ouais,
clones noires.
Les dessins animés, ouais.
Alors, plusieurs Jedi vont mourir dans le film, évidemment. Nous allons voir la scène qui explique comment Anakin prend le nom de Darth Vader, ainsi que la raison pour laquelle il prend ce nom-là. Qui sait? On va peut-être enfin avoir l'origine du nom. Rick McCollum ne peut dire s'il y a une scène qui se déroule dans un volcan. Il ne peut dévoiler quel est le personnage de l'univers étendu. J'ai une petite idée.
Penses-tu que les scènes dans l'eau, ils peuvent changer quelque chose numériquement pour que l'eau soit autre chose? Ça peut être pas de la lave, là, mais autre chose.
Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui réussirait à se mettre dans la lave.
Non, pas de la lave, mais autre chose.
Oui, effectivement, ils pourraient probablement faire de quoi dans du bacton, on sait jamais.
Ben oui, il nage dans du bacton, yes.
Apparemment que le combat Anakin-Obi-Wan va être très intense, mais c'est pas les effets qui font que le combat est intense, mais la trahison. Mm. Oh, j'ai hâte de voir ça. Joel Egerton, qui était l'oncle Owen dans Attack of the Clone, va filmer une ou deux scènes pour l'épisode 3 pendant une journée l'an prochain. Et notre cher ami qui faisait Lent Beru, la tante Beru de Luke, va être aussi présente. Très gentille demoiselle en passant. Nous allons voir Palpatine et Sidious dans une démonstration incroyable du côté obscur de la Force.
Vive les éclairs.
Exact. Rick mentionne que les fans vont se sentir tristes, choqués et trahis par les actions d'Anakin. Ben ça, je veux dire, je pense qu'on était tous déjà tristes, trahi par ce qu'il faisait dans l'épisode 2. Il va falloir en mettre plusieurs. John Williams va commencer à faire la musique dans un an, un petit peu plus d'un an, en novembre 2004. Les 10 dernières minutes sont vraiment pour les fans. Bref, si vous n'êtes pas un fan de Star Wars, allez pas voir ce film-là au cinéma. C'est le message. Un personnage majeur d'épisode 3 est un clone. Non, ce n'est pas Boba Fett.
Ça, c'est controverse totalement. Il y en a bien trop dit. Il y en a trop dit. Personnages principaux, c'est quoi pour toi les personnages principaux? Anakin, Padmé, Obi-Wan, Sidious. Ouais. Il y a 4 personnages principaux, vraiment. Là.
Ça ramène à presque pas grand monde.
Padmé, je penserais pas.
Qui c'est? Anakin, peut-être.
Anakin, Sidious, c'est probablement les choix.
On verra bien. Scénario contient 129 pages. 80 pages de ce scénario ont déjà été filmées. La rumeur du titre Birth of an Empire est totalement fausse. On est déjà au courant. Jar Jar ne meurt pas dans le film. Je suis désolé. À la fin du film, Leia et Luke ont moins d'un mois et nous allons revoir Yoda se battre à l'écran. Alors, le 13 août dernier, il y a eu beaucoup de scènes qui ont été tournées sur les studios à Sydney. C'est l'une des plus grosses journées qu'il y a eu depuis ce temps-là. La majorité des choses qu'on a vues dans les dernières semaines, c'était justement des sets qui se faisaient monter, démonter, quelques scènes qui se faisaient tourner rapidement, où on allait voir les fameux mini-movies de John Knoll et Rob Coleman, qu'il fallait que je vous parle. Ceux qui ont la superbe Hyperspace webcam... Ceux qui sont abonnés, allez faire votre tour le 22 août à 16h04 et regardez John Knoll et Rob Coleman faire un film intitulé The Fight.
Bataille.
Je vous laisse vous amuser, mais je crois...
C'est assez comique.
Je crois qu'il y a certaines images qui vont falloir que ça sorte puis que ça se ramasse sur TFN Humor. C'est impossible. Alors, nous sortons de l'hyperespace maintenant. Et voilà.
C'est 5 minutes juste?
5 minutes 2. Je suis sorti à 5 minutes.
Bon. J'espère que Raven n'écoutait pas.
Alors, qu'est-ce qu'on a déduit de cette superbe chronique hyperespace que maintenant c'est 5 minutes par semaine qu'il faut qu'on fasse?
Exactement. C'est beaucoup trop long.
Et voilà.
Il reste environ une demi-heure. Est-ce que j'ai le temps de lire le résumé et de parler du...
Je suis sûr que oui.
Donc, on va aller vite. J'ai pris carrément le résumé qu'un mercenaire sur siteclan.net a fait, Someone, et puis je vais carrément le lire. C'est assez complet quand même, je vais essayer de faire ça assez vite. Désolé pour ceux qui ont de la difficulté avec l'accent québécois.
J'espère que j'ai pas parlé trop vite pendant...
Oui, ben c'est pour ça que je t'avais fait...
Je sais, je m'en suis rendu compte moi-même que c'était une vitesse accélérée.
Bon, allons-y. Ça commence, le premier chapitre se nomme Infiltration. Han Solo joue au sabacc dans un bar nommé Tornito sur Onadax dans le Minos Cluster. Après s'être fait accuser de tricher, il est amené au patron. Han est à la recherche du contact Erin que Gour, qui était le Rin dans Refugee, leur a indiqué sur Bakura. Mais. On t'a entendu.
Ciel.
Mais apparemment, Han cherche au mauvais endroit. Finalement, après avoir tenté de questionner le patron, Han est jeté dehors sans ménagement, en dehors du bar. On retourne. Tahiri n'a toujours pas repris conscience depuis l'incident de Bakura. Jaina et Jag, à tour de rôle, se relaient près de son lit pour guetter le moment où elle reviendra à elle. Alors que c'est Jag qui fait son tour de garde, il se met en communication avec Jaina et ses parents. Il apprend que ni Jaina ni Han ont eu de résultats dans leur recherche du Rin et qu'ils devaient contacter. Finalement, ils décident de quitter Onadax. Alors qu'ils s'apprêtent à quitter Onadax, Han et Léa s'aperçoivent que quelqu'un s'est introduit à bord du Faucon. En fait, c'est un Rin qui cognait sa coque du Faucon, puis Han est allé ouvrir la porte.
Okay.
Et puis c'était, quelle surprise, Droma.
Oh, bagadon.
Qui est de retour. Bon, après avoir finalement quitté Onadax, Jaina rejoint Jag sur le Pride of Celonia. Elle y apprend que ses parents qu'ils ont trouvé un Rin sur le Faucon, mais ce n'est pas le contact qu'ils devaient rencontrer sur Onadax. Il s'agit de Droma. Celui-ci leur dit qu'il n'a pas fait grand-chose d'important depuis qu'ils se sont quittés, qu'il ne s'est contenté que de rassembler les membres de sa famille. Il indique aux Solo que leur prochaine étape pourrait être Esfandia, sur la bordure extérieure. Apparemment, les communications à longue distance sont coupées. Esfandia, c'est comme une base de communication qui relie, qui est comme un poste d'échange, un terminal pour entre les régions inconnues et le reste de la galaxie.
Okay.
C'est comme un amplificateur peut-être, là, je sais pas trop, pour booster le signal. Là.
C'est ça.
Bon, un relais.
C'est un relais hyperespace.
Exactement. Bon, ensuite, je suis rendu... Okay. Durant le transport vers Espandia, Jaina continue de veiller auprès de Tahiri. Elle se demande ce qu'elle peut bien faire pour l'aider à combattre la personnalité de Rina Quad, qui est sa personnalité
Vaughn.
Exactement. Le cauchemar de Tahiri continue. Alors qu'elle est toujours en combat avec Rina, un appel se fait entendre. Rina propose alors à Tahiri de s'allier face à ce nouvel ennemi. Et il ressent qu'il y a quelqu'un qui... Ils se battent entre eux. Et puis, ils sentent qu'il y a quelqu'un qui arrive, là, qui s'approche. Elle est encore dans le coma, dans son rêve. Là.
Okay.
Elle sent que quelqu'un arrive, un nouvel ennemi. Puis, ils décident, on va se mettre ensemble pour le tuer. Sinon, si moi je meurs, toi aussi tu meurs. Ils se complètent. S'il y en a une qui se blesse, l'autre elle se blesse. Donc,
ils décident donc de s'unir.
Exactement.
Pour survivre.
Exactement. Ben, pour l'instant, c'est juste se battre individuellement contre... Mm-hmm. Dès l'arrivée dans le système d'Espandia, Anne, Léa et Droma s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui cloche. Une flotte Yuuzhan Vong attaque la base de communication qui dessert le Outer Rim, les régions inconnues. Tout à coup, deux Star Destroyers impériaux sortent de l'hyperespace. C'est le grand amiral Palian qui vient aider l'Alliance Galactique à sauver le centre de communication. Ok. On est maintenant... on retourne avec le groupe de Luke. L'ombre de Jade est brutalement éjectée de l'hyperespace dans un secteur perdu. L'hyperespace dans un secteur perdu de l'espace. Luke, Mara, Jason, Danny, Kui, Saba et Tekli sont toujours à la recherche de Zonama Sekot dans les régions inconnues. Jason est presque sûr d'avoir localisé la planète en tant que lune d'une géante planète gazeuse. Oui, c'est ça. Mais il n'arrive pas à l'atteindre. Il ne cesse de tomber sur des anomalies gravitationnelles. Apparemment, la planète est bien protégée. Les anomalies gravitationnelles, je vais vous l'expliquer peut-être un peu plus tard, ou peut-être après l'entrevue. C'est une petite théorie qu'un...
Le fameux Dark Matter que
ouais,
tu parlais.
Exactement. Jason essaie de communiquer avec Mon Calamari pour avoir des nouvelles de Ben Skywalker, le fils de Luke et Mara, mais sans succès. Jason ne sait pas si cela implique quelque chose de grave. Alors qu'il discute avec Danny, ils ressentent tous les deux une étrange sensation à travers la force. Mais ils ne sont pas seuls. Luke, Mara, Saba et Tekli l'ont aussi ressenti. Jason et Saba sont sûrs que c'est Zonama Sekot qui tente de communiquer avec eux. En se concentrant tous ensemble sur l'origine de la sensation, ils tentent de rejoindre la planète. Après plusieurs tentatives, ils finissent par l'atteindre. Pour s'apercevoir que la planète est attaquée par les Yuuzhan Vong. Oh, attention. Les Yuuzhan Vong sont déjà là.
Ben gado.
Bien dit donc, on va dire en français.
Et bien dit donc. Oh, mais c'est un mot qui commence par PU et qui finit par PAN. t'as jamais écouté...
Non.
C'est bon. Forrest Gump en français.
Ok. Après avoir reçu des instructions, l'ombre de Jade tente d'atterrir sur Zonama Sekot. Apparemment, tous les membres de l'équipage ont perdu conscience en arrivant dans le système, et pendant ce temps, les Yuuzhan Vong ont été vaincus. Ça, c'est bizarre à expliquer, c'est que Zonama Sekot a comme, dans la force, assommé tout le monde.
Tabarnouche. Méchant coup de Mars.
C'est ça, puis ils se sont réveillés quand ils étaient pratiquement arrivés sur la planète, puis tiens, tout d'un coup, les Yuuzhan Vong étaient tous éliminés.
Ils sont tous petits.
Je vais poser une question par rapport à Sean et Shane, justement, par rapport à ça. Ensuite, après l'atterrissage, ils rencontrent les natifs de la planète, les Ferroans. Ils apprennent du magistère de Zonama qu'ils ne sont pas les bienvenus. Mais en parlant de vergères, Luke attire l'attention du magistère. Luke, Mara, Jason, Danny et Saba font connaissance avec la faune de la planète et vont de surprise en surprise. Bon, il y a beaucoup de découvertes de la faune, beaucoup de descriptions, etc., etc. On retourne du côté des Yuuzhan Vong. Le Seigneur Suprême Shimura continue à faire rechercher et interroger les hérétiques dans l'espoir de les éradiquer. Nomanor assiste à l'une de ces réunions d'état-major. Grâce à la complicité de la prêtresse
Ngalu.
Namor et son lieutenant Kunra jubilent de voir Shimura, que Shimura n'arrive toujours pas à percer le secret des hérétiques. C'est assez... c'est pas sadique, mais il y a comme une espèce de puits ou un trou sur Yuuzhan'Thal, l'ancien Coruscant, puis tous les hérétiques ou les Yuuzhan'Vong qui sont douteux, ils pitchent dans le trou, ils est démembre, genre, puis ils pitchent dans le trou à mourir, là.
Une équivalence du Sarlacc Pit.
Ouais, c'est ça, sauf qu'ils meurent pas, là, je veux dire, ils souffrent jusqu'à temps qu'ils meurent. Ils se font pas vraiment manger, là.
Si tu te fais digérer pendant 1000 ans, tu penses que tu vas pas souffrir?
Oui, oui, mais... mais je veux dire, c'est pas une créature qui...
On s'entend, on s'entend.
Ouais, c'est ça. Malgré, je pense qu'il y en a une créature quand même, mais...
Qui mange.
Ouais. Le second chapitre s'appelle Confrontation. Sur Esfandia, les forces de l'Alliance Galactique et de l'Empire combattent les forces Yuuzhan'Vong à 1 contre 10. C'est pas très... rassurant. Ouais. Le faucon s'engage dans l'atmosphère d'Esfandia. Tout à coup, il détecte un signal continu provenant de la planète. La bataille sur Esfandia fait toujours rage. Palaeon met au point un plan pour détruire le Yamosque qui croit être présent et donne des ordres à Jag et à ses troupes pour détruire le coordonnateur de guerre. Jag se prépare alors à faire quelque chose pour impressionner le grand amiral. Oui, Palaeon a dit à Jag, « Impress me ».
Surprise me.
Ouais.
L'équivalent impérial de ça.
Pendant ce temps, Jaina essaie, grâce à un lien télépathique avec l'esprit de Tahiri, d'aider celle-ci. Ouais, Jaina est pas en train de se battre, elle est encore dans le vaisseau principal. Elle s'introduit alors dans le cauchemar de Tahiri. Elle se retrouve alors sur le vaisseau monde de Mirkir, l'endroit même où Anakin est mort. Mais maintenant, Jaina est prisonnière du cauchemar de Tahiri. Jaina tombe dans le coma puis elle respire dans le rêve à Tahiri.
Bravo. Golf clap. Raini.
Riina.
Ouais.
Raini. Non, Riina apprend alors que Tahiri apprend alors à Tahiri qu'elles ne peuvent survivre l'une sans l'autre. Si l'une d'entre elles meurt, les deux mourront. Elle s'inflige alors une blessure que Tahiri ressent aussi. C'est juste pour y montrer là-dedans.
Si je me tatoue là...
Exactement. C-3PO a réussi à déchiffrer le signal. Oui, C-3PO est présent.
Ah ben.
Surprenant. Apparemment, il provient d'être natif de la planète. J'essaierai même pas de prononcer le nom des êtres qui habitent cette planète. Je vais le montrer à Sébastien, puis il va peut-être réussir à le
défi linguistique à relever. Dans le haut de la plage. Ouais, évidemment, c'est sûr que...
je la pose la question d'ailleurs.
Consonne. 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 Alors, ça serait les brrbrr.
Ouais, c'est quelque chose comme ça. Brrbrr, quelqu'un qui se noie, là. C'est ça. Ça ressemble à ça. apparemment, bon, c'est ça, les êtres natifs. Sur place, la description serait un peu comme des méduses. Qui flotte dans l'atmosphère, un peu ce genre de truc-là. Okay. Ce que nos amis ont du mal à croire, vu l'état de l'atmosphère. C'est une planète glaciale encore, donc ils sont surpris que des êtres sont capables de vivre dans l'atmosphère. C'est alors que nos amis aperçoivent que par la vitre, par le hublot,
par le hublot du vaisseau,
ouais,
des fleurs.
Des espèces de fleurs, oui, c'est ça. Ça ressemble à des fleurs, ouais. C'est weird, là. C'est une forme...
Est-ce que les filtres d'air du vaisseau fonctionnent encore bien? Telle est la question.
Jag, après avoir effectué une manœuvre impossible pour impressionner, réussit à se faire passer pour mort par le Yamosque. Il peut alors préparer son attaque sur la frégate contenant le Yamosque. Je sais pas si je vais avoir le temps d'expliquer un peu la manœuvre. Bon, oui, je ferai ma critique après l'entrevue puis la traduction. C'est bizarre, il réussit à... Comment je faisais? À faire sauter un des vaisseaux. Ou...
En avant de lui, puis donner l'impression
non, que son mais vaisseau explose. Il fait comme rentrer à l'intérieur. Okay. Là, il détruit l'intérieur, puis ça explose. Mais chaque morceau restant de l'explosion, il y a quand même un Dovin Basal dessus.
Okay.
Fait que là, les morceaux, ils sont projetés vers un plus gros vaisseau Yuuzhan'Vong, mais... même si le Yuuzhan'Vong tire sur les morceaux qui arrivent vers lui, mais les Dovin Basal encore vivants sur chaque, absorbe les coups des Yuuzhan Vong, puis là, ça fonce sur le...
Ça fonce sur le vaisseau. Oh, ouais. Mauvais.
C'est comme, whoops, assez impossible, là, mais...
On vient de découvrir comment défaire les vaisseaux...
Mais il faut que les dopines basales soient encore vivantes dans les morceaux que ce sont.
C'est ça.
C'est assez tiré par les cheveux quand même. Je trouve ça une manœuvre impossible.
Je suis sûr qu'il y a un chapitre des services secrets de la République qui sont en train de faire pousser des devines basales sur une planète à quelque part.
Okay. Palion continue de diriger la bataille et se demande ce qu'il peut faire pour aider le Faucon. Mais celui-ci, via un message au Pride of Celonia, annonce qu'il n'a pas besoin d'assistance. Palion reçoit alors un message de Jag qui lui demande de se tenir prêt. Anne recherche un moyen de sauver les créatures natives d'Esfandia, des Yuuzhan Vong, parce que ceux-ci ne cessent de bombarder la planète. Oui, la planète est bombardée d'orbite. Puis les créatures sont tellement sensibles qu'il y a juste le réacteur du Faucon qui passe dans l'atmosphère, ça les tue. Fait qu'ils sont obligés d'atterrir puis pas bouger. Toutes les créatures sont autour, puis okay, on est pris là, là. On continue.
Jack réussit à détruire la frégate.
Lorsque la bataille est terminée, il apprend que l'on est sans nouvelles du Faucon et que Jenna est dans un coma. Des bonnes nouvelles.
Toum, 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 toum.
Après 2 heures de marche dans la forêt de Zonama, on est de retour sur Zonama, nos compagnons arrivent enfin au village et reçoivent un repas. Jason rencontre alors une jeune fille qui a peur des Jedi. Elle apprend alors à Jason qu'Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker sont venus sur cette planète. C'est référence au roman Planète Rebelle ou Rogue Planet dans la version originale.
De Greg Bear. Greg Bear.
Ouais. Nos amis assistent à un conseil. Ils comprennent que la plupart des membres de ce conseil sont contre leur présence sur la planète. Par 3 fois, les Jedi sont venus sur Zonama et les 3 fois, la planète a été attaquée. Luke raconte alors que ce qui s'est passé dans la galaxie depuis l'arrivée des Yuuzhan Vong. Puis Jason raconte leur quête de la planète perdue. Puis le magistrat explique que Zonama ne peut pas les aider. Elle ne se croit pas assez puissante pour exterminer les Yuuzhan Vong. Luke et Jason annoncent alors qu'ils ne souhaitent pas le génocide des Yuuzhan Vong, seulement l'arrêt de la guerre. On apprend aussi que la troisième attaque, celle qui a été perpétrée par les Yuuzhan Vong, a été l'œuvre de Tarkin. Et ce, après la venue d'Obi-Wan et Anakin, partis à la recherche de Vergeur. Ouf, c'est assez mal écrit, mais en tout cas, pas grave. Le magistère annonce alors qu'Anakin a sauvé sa vie. Elle a dit à Luke que l'on ne peut juger les autres par leur manière d'agir, mais plutôt par ce qu'ils tentent d'atteindre. Durant la nuit, nos compagnons se font attaquer par les Fair Ones. Ils réussissent à s'en sortir, mais seulement pour s'apercevoir que Danny Kui a été kidnappé. Nomanor, on retourne dans la partie des Yuuzhan Vong. Nomanor et sa troupe tentent de chercher certains traîtres à la cause. Nomanor et la prêtresse discutent de ce que celle-ci a appris à la cour de Shimra. Apparemment, un commandant Yuuzhan Vong a retrouvé la planète perdue Zonama Sekot alors qu'il a obtenu un rendez-vous privé avec le Seigneur Suprême Shimra. Le commandant a mystérieusement disparu. Aussi, Nomanor et ses lieutenants commencent à former de nouveaux prophètes pour étendre le plus possible la prophétie. L'hérésie, quoi. Shimra commence sérieusement à perdre patience à cause des hérétiques. Nomanor et ses troupes tentent étendre leur toile de plus en plus loin. Grâce à une seule accusation de la prêtresse Naglout, Nomanor réussit à se débarrasser d'un de ses adversaires de toujours, le préfet Hachek. Hachette.
C'est ça, c'est Hachette.
3e chapitre, enlèvement.
Oh non, dis-moi pas que les enfants solo vont encore se faire enlever.
Non. Jenna est toujours prisonnière du cauchemar de Tairi. Apercevant Ri-Ina et Tairi et voyant la Yuuzhan Vong s'infliger une blessure qui fut aussi causée à Tairi, elle comprend que si l'une arrive à tuer l'autre, elles mourront toutes les deux. Et pourtant, Tairi, qui devait être bien au courant, semblait l'ignorer. Sur Esfandia, Anne, Léa et Droma tentent d'échapper aux Vong qui les pourchassent. Finalement, ils sont aidés par les natifs qui se cachent dans leur nid, les espèces de cavernes. où est aussi camouflée la station de communication. On retourne dans le cauchemar. Dans le cauchemar de Tahiri, celle-ci accepte enfin qu'elle ne peut vivre l'une
sans l'autre.
L'une sans l'autre, plutôt, oui. lors d'un répit de la bataille spatiale, Jag arrive à la chambre de Tahiri où Jaina est étendue à côté de celle-ci. Il cherche un moyen de la ramener. Et c'est à ce moment que... C'est pas inscrit, mais Jag avoue son amour à Jaina. Il dit « Je t'aime ». À Jaina, « Oh! » Attention.
Le prince charmant qui vient embrasser Blanche-Neige. Mmh.
Finalement, Tahiri et Rihina ne font qu'une. Le cauchemar de Tahiri prend fin. Il décide de se fusionner.
Fusion!
Exactement. Anne, Léa et Droma, ayant retrouvé la station de communication, reçoivent une visite guidée. Ouais. Il y a encore quelques techniciens ou peu importe qui sont sur place puis ils montrent comment la station fonctionne, à quoi qu'elle sert. Son but. Palion ouvre alors une communication avec le commandant de la flotte Yuuzhan'vong et fait tout pour lui faire perdre patience. C'est le rematch, le combat revanche entre... je me souviens pas si c'était dans Remnant, je crois. C'est le même commandant, puis Palion avait réussi à le faire retraiter en l'insultant, etc., etc. Là, il revient, c'est encore les deux mêmes. Puis, il s'insulte encore, là. De la même façon.
La guerre par les mots plutôt que par la bouche de leur canon.
Exactement. Tahiri et Jaina reprennent conscience. Tahiri est maintenant différente. Elle n'est plus ni Tahiri ni Rihina, mais un mélange des deux. Elle prête alors serment à Jaina de faire tout pour la protéger. Elle et sa famille, c'est un autre live debt à la Chewbacca. Là.
C'est cela.
Bon. Dans la base de communication sur Esfandia, le chef de la base a découvert un vilip. Je sais pas c'est quoi le terme francophone, qu'il montre à Léa. Apparemment, quelqu'un a posé cette balise pour que les Yuuzhan'vong trouvent facilement la base de communication. Léa se charge de retrouver le traître, ayant déjà une petite idée sur la question. Palion se prépare à envoyer une équipe pour retrouver la base de communication et le faucon. Mais il ne sait pas comment faire circuler un vaisseau à travers le barrage que forment les vaisseaux Yuuzhan'vong. Finalement, c'est Tahiri qui, grâce à ses connaissances du langage Vong, évidemment c'est le mélange des deux, donc elle sait communiquer en Yuuzhan'vong. Tahiri tentera de lui faire une ouverture. Tahiri contacte le commandant Vorik et réussit à lui faire croire qu'elle est de son côté, sous l'identité de Rihina. Elle lui fait croire qu'elle a un plan pour contrer les infidèles. Il va donc la laisser rejoindre la station de communication. Pendant ce temps, sur Esfandia, Anne et Droma sont en mission vers le noyau de la planète. Jason s'est lancé à la poursuite des kidnappeurs. On retourne sur Zonama Sekot. Jason s'est lancé à la poursuite des kidnappeurs de Danny. Alors qu'il les a rejoints, il s'aperçoit que ceux-ci sont probablement dirigés par quelqu'un de haut placé. Senshi, c'est la personne qui est haut placée. Saba, lui, qui suivait Jason, arrive aussi sur les lieux. Jason annonce aux kidnappeurs qu'au lieu d'un seul otage, ils en auront trois. Les kidnappeurs, dans le fond, tu sais, Jason puis Saba auraient pu toutes les tuer pour repartir avec les kidnappés. Ils sont des Jedi, mais ils ont dit non, on va vous suivre, on est deuxième et troisième prisonniers. Alors que Mara et Luke se préparent à partir à la recherche de leurs compagnons, ils s'aperçoivent de la disparition du magistère aussi. C'est bien. Finalement, Jason et Saba, Danny étant toujours sans connaissance, arrivent au campement des kidnappeurs. Quelques minutes plus tard, d'autres arrivent avec le magistère. Apparemment, Senshi a peur que le magistère cause du tort à Zonama en laissant les étrangers librement circuler sur la planète. Dans le fond, ils ont kidnappé les deux, là. Le magistère et puis Danny. Les Ferwan sont toujours à la recherche des kidnappeurs. Aucune trace n'a été laissée et malgré le fait que Luke sait que Jason va bien, ils sont quand même inquiets pour eux. Après avoir cherché pendant des heures les kidnappeurs, un des Ferwan croit savoir où ils se trouvent. Mais pour les rejoindre à temps, il faudra utiliser l'ombre de Jade, le Jade Shadow. Ce que les Ferwan refusent. Sur Zonama, le groupe de Saba et Jason atteint finalement la destination finale de leur voyage. Un bosquet de boras, et boras, c'est des espèces d'arbres qu'il y a là-bas des arbres vivants un peu.
Des Ents de l'univers Star Wars.
Ouais, c'est ça. c'est ça. On peut dire comme les Ents dans Lord of the Rings.
Un endroit qui respire le danger.
Ouais, un endroit qui respire le danger. Alors que Saba veut quitter, Senshi menace de tuer le magistère. Bon. Alors qu'un Coral Skipper apparaît sur les écrans du vaisseau de Mara, Cécotte ne le détecte pas. Luke veut le faire capturer avant qu'il ne fuit du secteur et alerte les huit envoyés. Il était caché derrière un astéroïde ou quelque chose du genre. Les Ferroïnes refusent de s'impliquer. Cécotte se chargera de le détruire. Cécotte est capable de se défendre, donc. Mais Luke refuse que la planète utilise la force pour détruire un vaisseau Yuuzhan Vong. Il a peur que la planète elle soit séduite par le Dark Side.
D'accord.
Attention. On retourne avec Nomanor. Nomanor est attaqué durant la nuit par les Vong sous le commandement de Shunmi, son lieutenant qui veut prendre sa place à la tête des hérétiques. Shunmi pense que Nomanor se fout bien du destin de ceux qui sont avec lui, qu'il ne pense qu'à son propre destin. Kunra, son autre lieutenant, lui sauve la vie alors que Shunmi s'apprête à l'égorger. On va faire ça vite.
T'as encore le temps.
Ouais, Révélation, qui est le dernier chapitre. Sur Espandia, grâce à l'aide de Tairi, Jaina et Jag rejoignent Anidroma, qui se prépare à combattre les Yuuzhan Vong. C'est une bataille terrestre sur la planète, une bataille sur des speeder bikes. C'est assez spécial.
C'est donc quelque chose dans lequel les solos sont particulièrement
habiles. Mauvais, ouais. La bataille contre les Yuuzhan Vong fait toujours rage dans l'espace, bien sûr. Alors que Jaina est en danger, Tairi lui sauve la vie face aux Yuuzhan Vong. Tairi est rendue une super guerrière maintenant. Jedi et Yuuzhan Vong mélangés, donc elle est capable de tout faire.
Megamix.
Ouais, c'est ça. Après que Tairi ait sauvé la vie de Jaina, elle demande à Droma de la ramener au Faucon. Mais ils sont attaqués par les Yuuzhan Vong. Après quelques manœuvres, ils réussissent à s'enfuir. Tairi et Jag, quant à eux, doivent faire sauter les charges qui ont été cachées un peu partout. Malheureusement, la commande radio ne fonctionne plus. Ils doivent donc aller au panneau pour les mettre en fonction manuellement. Qu'est-ce qui n'est pas mentionné, c'est qu'ils veulent faire sauter une des antennes ou quelque chose pour créer un hotspot sur la planète, un point chaud. Mm-hmm. Donc les Yuuzhan Vong vont voir un point chaud de l'orbite, puis ils vont tirer là. Ils vont penser que le faucon est à cet endroit. Ils vont penser que la base est à cet endroit, mais c'est juste une explosion. C'est pour cela.
Donc, ils vont s'attaquer eux-mêmes.
Entre autres. Tairi et Jag arrivent finalement aux commandes manuelles, mais celles-ci ne fonctionnent pas non plus. Quelqu'un devrait se sacrifier pour mettre les charges en fonction directement. Enigbar, un Nougri faisant partie de l'équipe de la base de communication, celui-là même que Léa croyait être le traître,
est blessé et décide de le faire.
Ouais, ben c'est ça. Il dit je suis blessé, donc
je vais me sacrifier.
Exactement.
Peut-être une rédemption aussi.
Oui. Après avoir tenté de communiquer par Comlink, le chef de la base de communication, Léa le retrouve torturé dans ses appartements. Et le vilip a disparu. Elle comprend alors qu'elle s'est trompée. Elle finit par retrouver le traître qui tente de s'échapper de la base pour contacter les Vong. Mais Jaina attrape le traître juste avant qu'il s'enfuit. Alors qu'il sortait, Jaina est arrivée de l'extérieur. Donc, Alors que le commandant Vorik se prépare à lancer son attaque finale, une flotte sort de l'hyperespace et change complètement le rapport, la proportion, on va dire, des forces en présence. Le commandant Vorik tente donc une attaque suicide sur le vaisseau de commandement impérial, mais son attaque échoue. En fait, il fait une autodestruction. Il fait sauter sa flotte. Il dit « Je partirai pas tout seul. » la nouvelle force en présence est la flotte du réseau d'espionnage des Rin. Rin, dont Droma est le chef. Alors que Senshi menace de tuer le magistère, Jason tente de trouver un moyen de sauver celle-ci. Focalisant son esprit sur le danger, il sent peser sur eux depuis... Je passe la phrase. C'est alors que Vergère apparaît. Sur Zonoma, alors que Luke se concentre sur le Coral Skipper, un petit garçon lui apparaît. C'est Cécotte, l'esprit de la planète Zonoma, qui apparaît sous la forme de son père. Dans le cas de Jason, ses côtes sont apparues sous la forme de vergère. Ok. Ils sont à deux endroits différents, mais ses côtes peuvent être partout en même temps, dans le fond. Sekot lui dit alors qu'elle est prête à répondre à ses questions. La vergère qui apparaît à Jason est aussi Sekot. Apparemment, Sekot s'est organisée pour tester Jason pour voir sa réaction face aux événements. Tout ceci n'était qu'une mise en scène. C'est alors que Danny reprend conscience. Tout le kidnapping, etc., c'était juste un test pour voir comment s'il réagirait avec violence.
Comment
etc.
les Jedi réagiraient s'il était pour amener d'autres violences à la à zone amant.
Exactement. Bon, Sekot raconte son histoire à Luke et ses compagnons. Pendant ce temps, Sekot continue à discuter cette fois-ci avec Jason et Saba et Danny Kui. Ils sont à deux endroits différents, donc. Sekot demande alors à Luke et Jason indépendamment s'ils veulent qu'elles fournissent des armes pour combattre les Yuuzhan-Vong. Les deux auront une réponse différente. Luke accepte et Jason refuse. Il refuse l'aide de Sonama Jason, mais Luke oui. Ok. Sekot annonce alors qu'elle a déjà pris sa décision. Elle s'engagera dans la guerre contre les Yuuzhan-Vong. Nomanor et ses lieutenants Kunra et Naglu. C'est assez dur à prononcer.
C'est Ngalu.
Ngalu se rencontrent pour préparer à faire tomber un autre rival de Nomanor. Ils aimeraient aussi bien retrouver le commandant Yuuzhan-Vong qui a trouvé la planète Zonama Sekot et qui a mystérieusement disparu.
Tiens donc.
À la cour de Shimura, celui-ci supprime finalement le traître Nadgul, anéantissant tous les espoirs d'un homme en or. Oui, Shimura se rend compte que il découvre c'est qui le traître et puis elle se fait tuer.
Ah ben.
Tiens donc, épilogue. Après avoir remis en fonction la station de communication d'Esfandia, Léa contacte Kalomas, qui est le chef par intérim, le chef d'État, non?
Okay,
le chef d'État de l'Alliance Galactique.
La Nouvelle République.
Ouais, c'est ça. celui-ci demande alors de revenir sur Mont Calamari. Car les Yuuzhan-Vong et l'Alliance Galactique sont en train de reformer leur flotte. Fait que ça se prépare pour la grosse bataille. Léa contacte Luke pour avoir des nouvelles. Terry vient voir Jaina pour la remercier de son aide et Jaina lui réitère son amitié. Anne vient rencontrer Tahiri pour lui demander pourquoi elle a laissé partir Droma. Droma qui est parti incognito. Elle lui apprend alors que Droma est à la tête du réseau d'espionnage d'Erin et le patron sur Onadax. Je raconterai ça un petit peu, c'était assez comique. Anne voulait lui dire au revoir, mais Tahiri lui dit qu'ils se reverront bientôt. Donc, Droma, on va le revoir. Luke et Sekot discutent de la force vivante. Puis Luke reçoit la communication de Léa. Ils se font mutuellement des nouvelles de chacun de leur côté. La communication étant rétablie maintenant, donc ils ont réparé le centre de communication. Alors que Jason recherche Danny pour lui parler, c'est Sekot qui vient lui faire la conversation. Ils cherchent alors à parfaire leur compréhension l'un de l'autre. Et voilà.
Et le tout dans le temps voulu.
Ouais, assez tight, merci.
Non, très bien.
Donc.
Pile.
Désolé pour ceux qui n'ont pas compris mon accent québécois.
Donc, la fameuse petite histoire que tu viens de conter par rapport à Droma et le fait que c'est le chef d'espionnage d'Erin. Je sais pas si on a le temps.
Non, ben, il n'y a pas vraiment. Ah, mais c'est plus. C'est au début, c'est parce qu'il y a une scène comique quand Anne est dans le bar. Il joue au sabac, puis il y a une bataille. Puis il se fait amener devant le patron, mais le patron ne le voit pas. Il sa voix camouflée, etc., mais c'est Droma qui est là.
OK.
Il fait semblant d'être le patron, mais tu vois un peu Anselou se battre, là, encore. C'est assez comique. Assez comique. Donc, on va tout de suite aller à la pause, parce que nos chers interviewés doivent attendre notre appel.
Impatiemment.
Exactement. Donc, on va revenir immédiatement après la pause. Pour l'entrevue en tant que telle avec Sean William et Shane Dixon.
And for all of you just tuned in, we're just about to call Shane Dixon, Sean Williams back in Australia. So stay tuned with us right after this musical break. We're going to be right back with you in a great interview.
Doesn't mean much. Doesn't mean.
doesn't mean anything at all. The life I've left behind me is a queen.
Hi, this is Steve Sansweet, and you are listening to Star Wars en Direct.
As much questions as the...
Star Wars en Direct vous revient après ces quelques messages.
Hi everybody, this is Josh from TheForce.net. When you get online, be sure to stop by the number one fan site for Star Wars for your daily dose. Our Star Wars news is updated literally a dozen times a day. We cover everything from the upcoming Episode 3 to the latest video games and collecting news. If it's connected to Star Wars, you'll find it on TFN. Post your thoughts about Star Wars, react to the latest news in the Jedi Council forums, over 10,000 posts a day. Stop by our side of the internet, TheForce.net, your daily dose of Star Wars.
Connexion Plus, l'endroit pour la vente, l'échange et le rachat de produits dérivés de Star Wars. Venez nous rencontrer sur la rue Sud de Montréal, au 163 Chemin Saint-Jean, à La Prairie.
Connexion Plus, au 450-659-3411.
Citlan.net, c'est... Les toutes dernières actualités sur l'univers Star Wars. Plusieurs dossiers sur la saga. Des événements et rencontres entre fans. Un énorme forum de discussion. Une radio web à contenu 100% Star Wars, incluant une ligne ouverte en direct. Plusieurs concours ouverts au Québec et en Europe. Et bien plus encore. Ne résistez pas à la tentation du côté obscur. Cliquez sur le www.citlan.net.
No problem.
Nul besoin de traverser les ponts pour vous procurer vos produits dérivés de Star Wars. Priorité collection à tout ce que vous cherchez et bien plus encore. Venez découvrir nos nouveaux locaux sur la rive sud de Montréal au 2189 Chemin Chambly à Longueuil. Chez Priorité Collection, notre priorité est la vôtre.
450-651-8482.
Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Star Wars en direct vous présente une entrevue avec Sean Williams et Chain Dix, auteurs de la trilogie Force Hérétique du Nouvel Ordre Jedi.
Hi, and we're back on the air on Star Wars en direct, the voice of Star Wars fandom. And we're back on the air with Sean Williams, the author of Force Heretic.
Half of the author of,
of the Force. Unfortunately, Shane Dix will not be
attending this interview
exactly
this time around. Sorry enough. Well, welcome, Sean.
Thanks a lot. Shane sends his apologies. Australia is a plague-ridden continent at the moment. So he's sick and I'm sick, and he's in bed somewhere.
Okay, what have you been up to since our last interview?
I've been doing lots of stuff. I've been finishing finishing a new book and rewriting a new book, and I've been in LA, and I'm now in Sydney at the moment. I normally live in Adelaide, so I'm on the other side of the Australian continent, staying with my partner, trying to get my work done, and I'm flying back to Adelaide tonight, so it's been quite busy.
What did you do in LA?
There's a competition called the Writers of the Future Contest for writers of science fiction, fantasy, and horror, and it's for amateurs, so people who haven't had professional sales can enter this competition, and if they win, get all sorts of wonderful prizes, including publication in possibly the world's largest science fiction anthology, and I won a prize in this contest 10 years ago.
And you're a judge now, or?
I'm very keen to be a judge. They're keen to make me a judge, but they flew me across this year to be a sort of a 10-year after example to this year's round of winners. Like, this could be you in 10 years' time. And it gave me a chance to meet some of the other judges. Like Kevin J. Anderson was there. It was nice to catch up with Kevin. I remember him from 10 years ago.
Okay.
To make his acquaintance again, and yeah, so that was wonderful. And
that's cool. Okay.
Very fleeting trip, but it was definitely worth it.
I have all my questions written down, but they're not in a particular order, so it's all mixed up.
That'll be no problems at all.
Okay.
I'll try the best to answer them.
Okay.
Without shame.
Okay. The new Tahiri, after coming out of her coma, declares some kind of a life debt to Jaina and the Solos. Was that in honor of Chewbacca?
Perhaps a subconscious tribute. I think I Tahiri was certainly our favourite one of our favourite characters throughout this trilogy, and I love the idea that she is inventing her own traditions, which are combinations of the traditions that Tahiri used to have, plus the traditions that Rina used to have, and Jaina has certainly helped her fashion herself into her new being. So I think there is a very, very strong depth there, whether it manifests exactly the same way that Chewbacca's did.
We shall see in the next.
I'm dying to see what happens in the next couple of books with her and beyond. I think she's a wonderful character. And
if I remember correctly, you said that Tahiri will survive the NGO series. So.
Oh, no, I didn't say that. No. Must have been Shane. We'll blame everything that snuck out on Shane.
Okay.
I'm certainly hoping that she will continue on beyond these series. I think she deserves books of her own.
That's true. Would you like to write it?
Oh, I'd love to. Shane and I had just a wonderful time working with her character and working with the people at licensing on her character as well. She was very much a collaborative venture on all behalf, and she's kind of a symbol, you know, I mean, of what Luke's trying to do. Luke doesn't want to destroy the Yuuzhan Vong, and I guess she's kind of a sign that there may be a way of bringing the enemies together. She's the Yuuzhan Vong and humanity sort of combined into one person, and if she can keep it together, then maybe there's hope for peace rather than decimation on either side.
Yeah. Luke is wondering about Zona Massicot using the dark side on the Coral Skipper. Or be used as a super weapon against the Yuuzhan Vong. The first image I imagine was the Death Star. Can you give us an idea on how powerful Zona Massicot can be? How does it defend itself since our heroes were unconscious? There wasn't much description of that battle.
That's right. I mean, Zona Massicot has had enough time to build all sorts of physical weapons. I mean, it has all its shields and its hyperdrive generations. It's built into its crust and stuff like that. It has all of those, but because it's so strong in the Force, it must also have some sort of Force capability that...
that you cannot tell, probably.
Sorry?
You can probably not tell us what it is.
I guess I can't tell you exactly okay. what's going on, but its capabilities must be huge.
Okay.
This is a being that's extraordinarily strong in the Force in its own way, and who knows what it could do.
Okay. If you remember...
I mean, it can knock out a ship full of really high-powered Jedi, so who knows?
If you remember in our first interview, I was mentioning the covers of your three books, and you said, okay, the first one is not a scene in either book. The second one was actually a scene from Refugee, and the third one also. But after reading the third novel, I don't remember Danny Kui being caught up in the Boros and Jason lighting up his lightsaber. Was that scene cut off from the original draft or something?
Jason didn't light up his lightsaber. And doesn't, I think Danny Kui has curly brown hair.
Curly brown? Boy, it seems blonde on the cover.
Sort of, yeah.
Blonde and sort of straight on the cover.
Yeah.
Yeah.
So I think there's a bit of artistic license going on.
Okay.
I think maybe someone told the artist there was a scene with Jason and somebody and the trees had lots of tentacles and go away and paint to your heart's content.
Okay.
So we got sort of something that's kind of based on a scene in the book, but definitely not exactly.
Yeah, they're at the right location, but the action isn't that... is
that accurate?
Yeah, exactly.
No, it's not quite right. Again, trying to capture the spirit but or the scene, but not getting the details quite right.
Okay. Tairi is wearing shoes now.
Exactly, yeah.
Was
that about time she started putting shoes on?
Was that a way for you to signify her big transformation in an original way?
Yeah, it was certainly a nod to... readers of the original Tahiri, who would have certainly known that she didn't like wearing shoes, would go, oh, this is different. And we were looking for little ways to do that. Her handedness, I think, whether she was left-handed or right-handed, I think we mentioned through a mention of that too. But the fact that she was wearing shoes is a clear way of signalling that this is a slightly different person. She's still calling herself Tahiri, but there are significant differences there. She's still working out exactly who she is, but one of the new things the new Tahiri likes is wearing shoes.
Okay.
we'll see what happens. Maybe that will change. Maybe we should go back to wearing no shoes.
Yeah. With the new birth of Tairi, how do you see the character develop in the two remaining books? Since she's a mix of Jedi and Vong, is she the most powerful weapon against the Yuuzhan Vong?
Obviously, I can't give anything too much away.
Okay.
And to be honest, I'm not sure. I'm not sure exactly what Greg and the other writers are doing with her.
And James, okay.
But I will be looking forward to seeing. Sorry, I actually don't know exactly what's happening with her. I can't remember from the final synopsis.
Okay, maybe it wasn't mentioned in the version of the Bible that you had.
Yeah, maybe. This was certainly something that we developed in the course of our three books. That I don't think was in the original Bible.
Yeah, and since the Bible is always the future of the Bible is always in movement, maybe they decided to go the other way with Tahiri and give her comic books, her own novels and stuff like that. So
hey, a comic book with Tahiri, that'd be cool.
Oh yes,
that'd be great. I'd love to work on that.
Besides your three novel at a time.
Yeah. That's right. Yeah, exactly. It's not as if I haven't got enough to do at the moment.
Besides the novel Rogue Planet, where did you find your inspiration for the landscape, fauna, and wildlife of Zona Massicotte?
Well, most of it came from Rogue Planet. A lot of it came from discussions with the Lucas licensing people. A lot of that was developed in the process of actually writing the book. There was quite a lot of rewriting done on this book to get everything exactly right.
Okay.
I think this draft that made it to print was draft 8 or 9 or something like that, and there were significant changes between some of the drafts. And because this was the first time since Rogue Planet that we'd really seen Zona Massicotte, it was interesting for all of us to combine all our different visions into one and make sure we knew exactly what we were going to do with it. So,
but there was a lot of description, like you did in Refugee with Scylla, with the Schist planet.
Yep.
Okay.
Yeah, we there were some descriptions that ended up not making it in. There were some that we added because we were asked to by the Lucas licensing.
Okay.
And it was because it's such a collaborative thing. It was quite hard. I mean, the way I was picturing it wasn't quite right, so we needed some tweaking. And I think we got there in the end. I think it's a wonderfully rich, complex planet. There's room for lots of different people's ideas. Again, I'm really curious to see where Greg takes it in his next book. And
did you went for a walk in the Australian bayous to like put you in the mood for
that was the hard thing, you know? I mean, I come from South Australia where there are no forests. There's hardly any trees higher than head height, and the scene where Jason and Co are running through the forest trying to find Danny is quite difficult to write when you've never actually seen a proper forest. I can't imagine what it's like to get lost in a forest.
Here, there is no problem.
Sorry?
No, there's no problem in getting lost over here.
I can imagine. And I was trying to remember Skywalker Ranch, where they have those big redwood pines. And
okay.
Trying to imagine what it would be like getting lost in amongst those. Okay. Having been to Skywalker Ranch, that did actually help the writing process quite a bit.
At the beginning of Reunion, there's a classic Han Solo type of scene. The old scoundrel in a bar playing sabacc. I figure you and Shane had fun writing that scene. Were you big Han Solo fan growing up?
Oh, yeah. I wrote the scene. I didn't tell Shane what I was doing. I wrote the scene and sent it to him, hoping that he'd really like it. Because I love the idea. As you say, it's sort of a tribute to the old guy.
Yeah.
But it's back to his bad old days and calling on his sabacc skills. They're not called on very often anymore, so it was nice to be able to go back and not just show him as he used to be, but also to show Sabacc in slightly a new light.
Yeah.
I was very relieved when Shane rang him the next day after I'd emailed it to him and said, I love it, it's great.
Yeah. Who developed this new kind of Sabacc?
Oh, that was me. I like maths.
Yeah, I see that.
23 is my favourite number, so I've always wanted to do something with Sabacc.
The cubic, I don't remember what the...
Yeah, I thought, and imaginary numbers. I thought, well, why not? I mean, you've got races like the Given who are so good with math.
Mm-hmm.
I thought, well, they're gonna be mucking around with the rules. Let's see what they can do.
Yeah.
I was a little bit worried that it might not stay in the final draft, but it didn't. I was very, very pleased. I think that's one of my favourite scenes in the entire series.
Okay. There is a mention of Zona Massicotte learning from the Vong's technology to do better ships of her own. And we also read that the Yuuzhan Vong commander got back to Shimura with a piece of the planet. Can we expect the same type of engineering from the Vong, learning from Zona Massicotte?
Maybe. I mean, the Vong don't have a good history of learning from other people.
I hope they don't clone Zona Massicotte.
Right?
I hope they don't clone the planet.
That's a scary thought, isn't it?
Yes.
There is much to be revealed in the next two books, that's all I'll say.
Yeah.
I don't want to give anything away inadvertently.
I can imagine. Okay.
It's all very important stuff.
Okay, now, what about this dark matter? The speculation that there is a dark matter galaxy colliding with the galaxy far, far away. Is that explanation important for the rest of the series, or maybe an answer to the Yuuzhan Vong origins?
No. It's me trying to find an explanation for the trouble of navigating unknown regions.
Okay, the hyperspace anomalies and everything. Okay.
The fact that you are always dropping out of hyperspace when you go near that place.
Mm. There's been quite a bit of discussion about dark matter in magazines like New Scientist and Scientific American. Well, there certainly was when I was writing the book, and because dark matter can only be, you can only detect dark matter by its gravity, and gravity interferes with hyperdrives and stuff like that. I thought, well, you know, it's a possibility, and there is actually a theory that there may be a dark matter galaxy interacting with our galaxy.
Mm-hmm. Yeah, but I see that you like science very much, because if I remember in our last interview or the one before, we were speaking about science in Star Wars and how you realize the escape of the, I think, Danny and Saba out of the ship. I don't remember the ship that transported all the refugees.
Right. Yeah, I think it was in the last interview. Yeah, but that's one thing that you did really well, and that's like putting the Star Trek fans to their knees bringing back actual science in the Star Wars universe.
Well, I'm really glad you like that, because I think science is important, and I learned a lot of science from these sorts of books, and even if it's not, I mean, it doesn't have to be. You don't have to give great big long explanations about the science, but as long as there's references to real science, then I feel good about it.
Yeah, we don't want too much science though, because it
No,
it's still space fantasy.
Want to down the plot too much, and some of the dark matter stuff was actually taken out in the final version. But I feel good for making the attempt, and people who know about dark matter might go, oh, that actually makes kind of sense. And people who don't know about it may be interested in looking more into it. And there is the whole dark matter, dark side kind of thing. So I was also couldn't resist it. You know?
Okay,
we'll come up with that later. You never know.
Yeah. Jason seems to be different from what Matthew Stover and Walter John William described him after getting the teaching from Verger. He seems more like in Balance Point. He's more
in dilemma with himself.
No, but he doesn't want. Doesn't seem to react the same way. How can I say this?
Written on purpose?
Yeah, written on purpose.
I think it's one of those cases where different writers write in different ways, mm-hmm. and I think...
But he still doesn't want a war. He wants a peaceful solution. So in that way, he's still the same as Balance Point, but we saw him really using not the dark side, but using his lightsaber and killing a lot of people in Destiny's Way and Traitor, so we thought he was a little bit different from... He had evolved in this new Jason, but we see that he's still...
he's come back.
Yeah, he's come back. He's still...
He's calming himself now.
He's what himself?
He's calming himself now.
Yes, that's right. I like to think that he's just still developing as a person, and he's trying different means to find a solution and...
Mm-hmm.
I guess it's hard to try and find a peaceful solution when you are cutting people up with a lightsaber. I don't know. He's still working himself out, and I know he will. He'll get there in the end.
Mm-hmm.
That he does. So.
A lot of fans are anxious to see Danny Kui and Jason get together. Is there a reason for this relationship to be this slow to develop? Besides Jason being completely blind,
does it develop any further? I can't say.
But I suppose they should end up together. That's probably why Danny Kui was inserted in the NGO series.
Well, it certainly looked that way in book one. I mean, it's certainly a strong hint, but. You know, Jason's going through some difficult times, and he's trying to work out what being a Jedi is all about too. And I guess is he actually aware that the old Jedi tended not to marry and have relationships?
I don't think they know.
Luke
knows.
Okay. Maybe he's still sort of in the process of trying to work out exactly what everything is for him and where he's going to fit in, and
He's got more important matter to think about. He got more important matter to think about, probably.
Maybe, yeah. There is some serious stuff going down
but
in the NJO universe.
But then again, if we go through that down the line of like conspiration, we know that Danny was introduced by someone we all love very much, and who knows, she could be like killed, and that would be a good point to set up Jason into a path to a darker side of him.
Could be.
Or going back to Tenelka.
That exactly. That too.
Yeah, we're off to somebody else. You never know.
Yeah. Oh, you met Tairi.
The big universe out there.
Yeah. Okay. Would the Force Heretic be the other solution to the war that Jason is feeling, besides using Alpha Red or Zona Massicot?
What do you mean?
Jason is mentioning that there is probably another solution to war. Would the Force Heretics, the Nomanor group, would be that solution?
Well, it's certainly a possibility. I mean, I guess I'm not saying this is what will happen, but if the Zona Massicot sort of resistance group, Heretic, ever did manage to become a significant power within the Yuuzhan Vong and did manage to actually contact the Jedi, there would be significant tactical opportunities for the Jedi in that, eating away at the Yuuzhan Vong from within. But would they trust Nominor? I mean, if Nominor got in touch with Luke and said, let's form an alliance, I don't know whether Luke would trust him too far.
Yeah. Not after what he did to Mara.
Sorry?
Not after what he did to Mara.
Well, exactly, that's right. And I think we know that Nominor's kind of doing this really for himself. He's not doing it because he's suddenly a good person.
No.
Still not very nice at all. Sort of like the idea that Nominor might have got forced into fighting on the side of the Jedi, even though he still hated the Jedi, but... who knows? That's for future books to reveal.
Yeah. I don't know if this is a mistake or not. During the space battle over Esfandia, the Widowmaker comes out from nowhere.
I knew you were going to mention that.
No. you kind of mix up.
Oh, that's a terrible typo. That's a typo that slipped past everybody.
Okay, you change the... It's an error between the two ships, the Pride of Selonia and the Widowmaker, probably.
Yep, it's purely a mistake. It's not that... once reappeared on the other side of the galaxy. It's a complete mistake. And Shen and I apologize wholeheartedly to the entire community.
But the people behind you didn't see it also, so...
No, it's one of those things that... excuse me, we have so many readers, so many proofreaders, and so many editors looking at these books, and still little mistakes slip through.
You're not the only one. I think Walter John William, when we interviewed him, he made a mistake in the species.
Yeah.
In the spelling or something. And well,
these things happen.
Yeah. You're not the only one.
Actually, I want to ask the next question then, you know, the one that you have on top of your page there, right there.
Oh, okay.
Shane, I kind of write stories myself, blurb for fan fictions called The Outworld Chronicles. And... at one point, about 2 years ago, I needed to come up with a name for a lake. And I asked one of my friends who was working on a computer at that time, and she turned to me and she just went like, Vgla. So that's what I named the lake. I named the lake Vgla. And in your book, you have like the... How do you pronounce that?
The
well, see, that can't be pronounced by a human mouth.
Okay.
Okay.
Answer to that question.
It's the native.
I pity the poor fellow who had to do the talking books.
Oh,
because when we look at it,
Harry pronounced it with something weird like.
Right, it's someone drowning or something.
It looks like someone gargarizing with water or something.
That's right. It's sort of.
for somebody who doesn't know what we're talking about, it's the native creature of the planet Esfandia.
I really like those guys, and I was trying to think of a name that made them sound really alien, and I thought, okay, well, I'll just do lots of B's and P's and R's and L's and no vowels. And
you just drag your hand over the keyboard and that thing comes... Did you just drag your hand over the keyboard and this comes out?
something along those lines. There were a few different spellings before I got one that looked right to me.
Okay.
It looked good on the page.
Mm-hmm.
And I thought... Shane's going to see this and he's going to hate the name. Change it for sure. And he didn't. There it is. B-R-R-B-R-L-P-P. And Shane didn't change it. He quite liked it. And I remember talking to him and saying, it's never going to get past our editor at Del Rey. It's never going to get past the Lucas licensing people. But we'll leave it in anyway because I quite like it. So we left it in and no one mentioned it.
No, it's
I guess they liked it.
Yeah, it's original, so...
Yeah, so I'm glad that it stayed, because it made them sound a little bit odd and a little bit different. And they're also called the Cold Ones, is that?
Yeah, yes.
Yeah, they're also called the Cold Ones, so there is a way to talk about them without having to go...
There's a translation, and probably the guy who will translate it in the audiobook probably will call them the Cold One.
Well, the other reason why I picked that name was because they talk in Trinary.
Mm-hmm.
And I imagine Trinary sounding a little bit like a modem. Sort of that wonderful thing noise that a modem makes.
When you connect, yeah.
Okay.
And that was me trying to spell that sound.
Okay.
Oh, sounds good.
Stupid, I know, but...
It's a little bit harder than R2.
Exactly. Well, exactly. He's another hard one to write for.
Okay.
I also wanted to see C-3PO try and say it.
Yeah. The role of Jason in Reunion and the entire Force Heretic trilogy seems to indicate that he will probably be the Master Jedi once Luke is gone. Is that the idea, the basic idea?
Well, I think to me, he's the one who is thinking most deeply at the moment about what the Force is and about what the role of a Jedi is with respect to the Force. So he, I think, is... Whereas Jaina is kind of a practitioner Jedi. Mm-hmm. She's out there getting down and dirty, and she's using the Force as a tool. Mm-hmm. Jason, I think, is a bit more thoughtful in that he's trying to work out exactly where everything sort of fits together. Mm-hmm. And I think my take on it, anyway, is that I think you need somebody like that at the heart of any sort of organization.
Yeah, like Jaina is the more classic Jedi, and Jason is more like a Jedi Council member type of Jedi.
Yeah, I think so. I sort of and a bit more Obi-Wan-ish as well.
Yeah, okay.
Really thinking very carefully about stuff, and philosophy is very important to him. I mean, his first reaction isn't to whip out his lightsaber
mm-hmm.
or to use a Jedi mind trick. He's something a bit more compassionate or a bit more thoughtful about, a bit more spiritual about him, which you know maybe would make him a perfect Jedi master, sort of leader of the new Jedi Order, maybe. Luke's still there. Luke's still around. You know, he's not necessarily going anywhere. So.
So far.
Yeah, so far.
No, exactly. There's always that little caveat.
The title of the trilogy is Force Heretic, but after reading the three novels, there's not much thing said about those heretic. We know that the movement is getting bigger and stronger, but nothing more. Any reason why this title, Force Heretic, was chosen instead of something related to the search of Zona Masikot, for example?
Well, there is a tangential reference to... from some points of view, Jason could be a Force Heretic.
Okay.
In that he comes to a slightly different conclusion to mm-hmm. Luke.
Yeah, okay.
When Zona Masikot makes its offer.
Mm-hmm.
So in some ways, he and Luke disagree.
Mm-hmm.
And given that they're probably the two most important people as far as the philosophy of the Jedi goes at the moment,
mm-hmm.
So one could argue that Jason is sort of maybe heading towards being a bit of a Force Heretic. He's certainly been running counter to the flow
mm-hmm.
throughout the series a little bit anyway.
Mm-hmm. And maybe Tahiri also could be a Force Heretic.
Was that sorry?
Probably that Tahiri also could be a Force Heretic.
Tahiri could be a Force Heretic
in the
as well,
same type of way.
And of course, Nominor. So again, it was a title that sort of had a very strong reference to Nominor, but also had these little other echoes to the other story threads as well,
mm-hmm.
Tahiri and Jason. So it seemed like a good title.
Okay. Was there anything that you wanted to add to the book, but Lucas' book didn't approve?
There was a sequence that was cut at the beginning of the book, and it was absolutely the right thing to do, but it explained where the human, the droid that Kunda Tol was in book two.
Okay.
There was a fairly detailed explanation as to where that human replica droid.
Yes.
Yep, where the HIDs came from.
Okay.
And that went because it didn't fit the story.
Okay, and we wanted to have a surprise.
Was it a surprise? There was a surprise there. Yeah,
yeah, because
the explanation that people have worked out where the droids came from anyway.
Mm-hmm.
Online, I've seen lots of people come to the same conclusions that we did. So,
mm-hmm.
so I figured the explanation wasn't really needed. But there was one character who was made into a droid and it wasn't a major character. It was just a smaller extended universe character that
mm-hmm.
We brought back for that particular scene. But he's been cut, so
okay.
I won't say who it was. I'd like to work that into a short story or something one day.
You can always suggest to Lucasfilm, Lucas Books.
Right, yeah, no, we did suggest it, but I think everyone's been so busy wrapping up the series in the last year that
mm-hmm.
I thought of doing something extra, I think.
Well, we'll eventually be talking with Lisa Stevens, president of the Star Wars Fan Club, so we'll give a word in for you guys about the insiders.
Ah, great. Thank you very much. Side of the Great magazine.
Yeah.
We use that quite a lot for things like the Chiss and other data
mm-hmm.
books. They've been very, very helpful.
Maybe participating in the RPG, the next NGO source book.
Yep.
because of the schist and everything, you probably are one. You and Shane maybe are the most knowledgeable on the schist.
I hope so. So I certainly hope that I certainly assume that a lot of the stuff that we've added will be used in these new source books.
Mm-hmm. Okay. If you consider the Force Heretic trilogy as a whole, how did you approach the writing, the direction you took for each book, the research, etc.?
Each book was a little bit different. Each book had to do different things, so it was different research tasks for each one. Certainly with the second book, we had to really concentrate on the chiss and try and add stuff to fairly sketchy references and try and flesh it out in character without adding too much as well, because we wanted to leave lots of room for other authors to riff on mm-hmm. that race. And the third book was easier in some ways because we got to make up the whole Asandia stuff and, mm-hmm. and we got to make up our own planet and our own race, whereas the previous two books we were using lots of existing races and mm-hmm. histories like Bakura and the Imperial Remnant and cultures like that.
Okay.
So, but I think with the third book we got... I guess my feeling is that we got better as the three books went on.
Okay, so you designed the trilogy book by book and not... having a basic storyline at the start.
We knew exactly what the storyline would be. We knew exactly what the end would be.
Okay.
We, after the brainstorming session in Skywalker Ranch, before we'd even started writing the books, before we even had the titles, we knew exactly what the final scene would be on Zanama Zakot. Okay. We knew exactly where we had to be on that.
Okay.
So we knew where each book would begin and end.
Okay, but between the start and the end, did you write a timeline, a storyline, for the three books, or
we knew what would be in each book. Yeah,
okay.
Started writing. We knew maybe not some of the details. Some of the I enjoyed writing the third book because there was lots of room for chase sequences and fight sequences, and some of the battles that were happening on Asandia were great fun to write.
Okay.
And weren't in the original synopsis, but just came out of the actual writing.
Mm-hmm.
And I think fight sequences work well that way. It's much more fun to sit down and work it out as it happens than to plan it bit by bit and then just write it down, for me anyway.
Mm-hmm. Okay, now it's not a Star Wars question at all. It's about writing in general. Does events in the world affect the way authors are writing stories these days?
I think so. Certainly with me, I notice that what happens in my personal life tends to creep into my books. Maybe not in the book that I'm writing at the moment, but the book after that or the book after that. I know that I broke up with my partner, previous partner, over a year ago, and that's starting to come out in the book that I'm just starting to write now. Mm-hmm. And the book that I just finished writing has references to the September 11 events, and mm-hmm. they weren't planned. They just sort of crept into the book without even me knowing it. And only when I went back and read the draft, I thought, "Oh, that's September 11."
Yeah.
But I wrote that almost a year after. So.
Okay.
Yeah. Well, we saw that you were on the chat on the website sci-fi.com with Asimov over there, and you were talking actually about these kind of things. Would you consider the war to be kind of introduced as a dark matter in the in your books? In a way, the war in Iraq and like world wars going all around the place, or just Bush coming to the administration of the United States.
Yeah, I don't know. It's sort of hard. You don't want to. I do feel very strongly about these issues, but there are ways of introducing these issues into books without being too obvious about it. I don't like books that are obviously didactic, that they have a real message to sort of hammer home, but
okay.
I like books that will discuss and explore things in an interesting, thought-provoking way, so whenever I feel compelled to discuss these issues, I guess I tend to err on the pacifist side, so
mm-hmm.
I guess I understand Jason's viewpoint a little bit better than Jaina's,
mm-hmm.
for
mm-hmm.
instance. So
yeah, that's a thing that Star Wars fan reading your book, I saw on the Force.net boards, they're debating about going to not to do genocide with the Yuuzhan Vong, and there's other people that say, well, let's kill them all, and you can compare this to real life. There are people that think that way and other people that think the other way. And
these are really real issues, and that's the good thing about this series, and why it's so well timed, I guess, because these are issues that we're all thinking about, and I don't think there are any absolute rights or wrongs, and that's why I really like characters like Jason and Tahiri, who, I mean, Jason's doing something that a lot of people would find difficult to understand. I mean, he's trying to find a way of finding a peaceful solution to the war, with a peaceful sort of way of coexisting with a race that's caused death to so many people, and including his own brother. A lot of people would find that really abhorrent, and but it's interesting that he's still trying. And Tahiri, who is, you know, at least nominally, I guess, half enemy, half good guy, where does she fit into the scheme of things? I think these sorts of ambiguities are really good to explore in fiction because they happen in real life too.
I think Tahiri could be the best leader for the heretic and the Jedi, because she's both, so she could be a real solution. I probably think that's what will happen in the unifying force. Let's see.
Well, yeah, I mean, obviously I can't say it, but I think she's superbly qualified for a really important role.
Yeah.
In anything. I mean, if she wants it. I don't know what she's going to want to do.
So you just came back from the United States. As Mayor Michael Bloomberg said, where were you when the lights went out? Because I got to tell you, you know, I'm one of the moderators on the Force.net FanForce boards.
Yep.
And I actually ended up moderating all of Canada for about 5 hours there.
Wow.
And that was really fun, was going back to my old job. But the guys over there, you know, the guys in Niagara said there is absolutely no cloud over here. So we started talking around, and apparently there might have been sightseeing or seeings of Yuuzhan Vong's ships. Do you think it might be related or something?
Oh, I wish it was true. Actually, no, I don't wish it was true. It'd be terrible. You know, I was back in Australia when the lights went out, unfortunately. I was going to go to New York after L.A., and I would have been there when the power went out, and that would have been amazing.
Amazing. We did have...
Because I wouldn't have been able to work, but but it would have been incredible to see New York in a way that it hasn't been for, I don't know, a century probably.
Yeah. Little question, like, there here on my side. Now that we see New Yorkers, like, deep that way, and they're not panicking when something as big as, like, one quarter of the United States running out of power at one point, what's the next thing that's going to scare them? It's kind of scary, you know? It's like, there's nothing you can do to scare New Yorkers anymore, and for that matter, you know, that quarter of the United States.
I don't know. I mean, I hesitate even to speculate just in case it actually happens.
Yeah, okay.
But the question I ask is, like, why would you live in New York? I mean, everything seems to be going wrong there. But I haven't actually been there, so I can't comment.
Would you consider New York to be the equivalent of Coruscant on Earth?
Yeah. That's interesting. Or I say it under a blackout. That'd be amazing.
Okay, I will end up with... Let's say we call them high-speed questions. I don't know if you will be able to answer them or not. If you can, but just say so. I'm going to tell you a word or a phrase, and you will be telling me. It's about the Force Heretic Trilogy, and you will be telling me if it was actually written in the NGO Bible or not.
Okay. Really? Okay.
You have three types of answer: yes, no, and maybe.
Okay.
But the maybe actually means that I can't say anything at all.
Yeah, that's it. I have only five, so it will be pretty fast. Is there any mention of the Vong getting a piece of Zonama Zekot back to Shimra?
In future books.
Okay. So that's a yes?
That's a yes.
Wait. When we refer to it in our books, do you mean, is that going to come up again in future books?
No, but I was just mentioning if that action of bringing a piece to Shimra was in the Bible.
Was in the Bible, yes.
Okay. That's important. That's an important thing. Okay, Alpha Red, was it in the Bible?
Yes.
Okay. Dark Matter, you said no, I think. Okay. The RIN network.
The RIN network, no.
Okay. The well, that.
Oh, actually, from memory, no. I bet about that. Maybe it's been a while. It's been a while since I. Yeah.
Okay. This one, I'm pretty sure it is written. The fate of all the major characters.
Yes.
Yes.
It's in the Bible.
Okay.
Actually, speaking of which, and since you've been to LA pretty recently and you spoke with Kevin J. Anderson, did you have an actual chance to discuss with him about the fact that mostly all of the characters he introduced to the Star Wars universe were dying in the NGO series?
No, didn't get a chance to discuss that. Not all of them are dying.
No, a couple of them.
Just a big bunch.
Well, I think that has happened for dramatic reasons too, because you want to show that the war is killing people. The war is actually really hurting the Jedi and the Republic and all that sort of stuff. And one way to do that is to kill characters that people actually know. So some are dying off, some are becoming a lot stronger, some are becoming more pronounced, and you're seeing more of them than you ever have before. Mm-hmm. But yeah, quite a few are dying, because killing off strangers doesn't mean as much as killing off somebody that you knew.
Mm-hmm. And probably they're taking out the Jedi with less experience, so the younger Jedi, which Kevin introduced in the Star Wars universe, with the young Jedi
are
Knights.
The best targets, yeah.
Yeah, but not all of them are going. Some of them are staying.
Yep.
The way some of the ending, that means that the Jedi don't completely lose.
I got another question about the name for one of your characters, Droma.
Yep.
In the Expanded Universe, we have a character called Ulic Kel Droma, and he has a brother. And he's one Jedi that loses sight into the Force, and as he's trying to get his redemption, dies, unfortunately. Was the name Droma took out from the Tales of the Jedi series, or did it just came naturally to you?
See, I don't know. I mean, that wasn't our name, Droma.
No, it was from James Luceno.
Oh, wasn't it?
It was in the Agent of Chaos duology. It's from James Luceno.
Jim Luceno, that's right. He wrote
so
that
we'll
originally.
Have to ask him.
One of the big concerns for us was when we brought Droma back, was we had to make Droma sound like Jim's excellent excellent writing of Droma, and we had him on standby, ready to rewrite our scenes if we couldn't write Droma as well as he did. But luckily, we didn't need him. We managed to nail Droma.
Yeah, the Droma being the leader of the RIN network, was it on purpose that it was not? Let's see, how did I mention that? Predictable. It was. Was it supposed to be predictable? I thought it was, but was it written?
That's okay. I mean, we sort of hoped that people would kind
catch
of
on. Yeah. Okay.
I mean, Droma was the best known RIN character, and he was an interesting guy, and yeah, I didn't mind if people guessed it in advance.
Mm-hmm. Okay.
Speaking of the cold ones, I don't know if you've ever heard of a TV show called Reboot.
I haven't seen more than an episode or two.
Okay, because in that TV show, there is actually a species called the Net Surfers, who are speaking like modems. So I was wondering.
no, I didn't know that. Oops, oh well.
But it's okay. I don't think you're going to be sued or anything.
Well, I can see Star Wars for this one.
Yes. Many fans have been shouting and crying about a game they'd like to see happening out in the field. We've got the RPG going on, we have some trading card games going on, but we don't have an actual Sabacc game.
It'd be a great idea, wouldn't it?
Would you like to be involved in actually making such a game possible?
Oh, sure. God, just so I could play it.
Because
and with all the different variations, I mean, there are different sorts of Sabacc, so... Mm-hmm.
Yes, that's it. So it would be a really, really hard game to have the rules coming up with.
I'm really surprised they haven't done it. Maybe they've tried it and discovered.
Well, I think there's some kind of a computer version, but
there's a computer version of that game, but it's really, really like
boring.
It's boring, and it's not respecting any rules that they're actually indulging into the game itself.
Okay.
So it's not following.
It's more like blackjack, but
sort of.
Okay.
That's it.
Okay.
It's
maybe it's one of those
sad
things that's more interesting in the imagination than it is in real life.
Yes.
Maybe they've tried to do it lots of different times and gone, oh, this doesn't cut it. We'll just let people imagine it as being a lot more interesting than it actually is.
Maybe it was too much of a headache.
Yeah. But well, yeah, no, I have actually wondered several times why they haven't done the game, and yeah, we'd love to give it a go.
Well, we're about done here. Any words you would like to say to Star Wars fans before signing out?
Oh, just that it's been a wonderful experience working with you guys. It's writing for you. I mean, we're one of you guys. I grew up reading Star Wars novels and have certainly loved the movies and I love all the stuff associated with Star Wars. So it's been wonderful being on both sides of the fence, and hopefully we'll be back here on air with you guys again soon.
I hope so,
I
too.
Hope so. Well, let's ask you one last question before we leave. You just spoke about, like, when you were younger, you read a lot of Star Wars novels. Do you collect those novels? Do you have any Star Wars collector's items in particular?
No, I borrowed them to friends. I never gave them back, all that sort of stuff. I've still got Splinter of the Mind's Eye.
Okay, the famous novel.
Long time ago, but I don't have my Han Solo trilogy anymore. That's gone, and there's a whole bunch of stuff that I used to have that I don't have anymore, which is really sad.
Would you like to see a Yuuzhan Vong action figure and maybe a Tahiri action figure being made?
Oh, yeah, for sure. That'd be great.
I think you would collect them.
Absolutely. Look, I'd definitely get a Yuuzhan Vong. I'd definitely get a Nominor if you could get one. Because they're my favorite characters, Nominor and Tahiri. I would definitely buy one of each of those.
They're custom figures existing, yes, but not commercial ones. So.
Okay.
Not so
far. Oh, yeah.
Well, it was a lot of fun, Sean.
Thank you very much for being with us.
And I'm sure Shane would agree that it's been wonderful fun talking with you guys. Thank you very much for having us on the show.
No problem.
Hey, it's a pleasure.
It was a pleasure.
But before you leave,
the rest of the series, you're going to love it.
Yeah.
Before you leave, we're gonna give you the recipe of Shmi for bad throats.
fantastic.
You just take a hint of blue milk,
yep,
which you preheat a little bit. Then you take some honey from Carson Bees.
Yep.
And you pour about 1 teaspoon or 2 teaspoons in it if you'd like. And you have to take some glimmer still as well, and about a teaspoon of glimmer still in there. And that will give you the spicy taste to the blue milk and honey. That will give it the sugary taste, which will balance everything in the force and will balance everything in your throat.
Sounds fantastic. I want some of that right now.
Well, thanks a lot, Sean.
Thank you. My pleasure. I'll speak to you again soon, I hope.
Yes.
Thanks.
Bye.
Bye. Well, that was interesting.
We've just been talking with Shane Williams. Shane Dix couldn't be with us, sadly today, because he was not feeling well. And there were some trouble that came up.
Mm. Sean also was sick, so
yes,
he didn't cough too often during the interview.
No,
That was great. So we'll be back after the break with the French translation. On va revenir après la pause avec la version traduite en français. Donc, restez à l'écoute. On revient immédiatement après la pause musicale.
A little break for our sponsors and a musical touch to the Star Wars on direct. Stars fill my dreams. I'm a traveler.
Et on est de retour à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. On vient d'avoir une entrevue avec Sean Williams, sans Shane Dix, qui était malade d'une gastro. Donc
une entrevue qui a duré la moitié du temps que si les deux avaient été là, probablement.
Bon, oui, possiblement.
Étant donné la teneur des réponses.
Donc, on va essayer de faire une traduction des questions que l'on a posées de mémoire. Bonne chance à nous.
On devrait y arriver. Tu veux-tu prendre ton document sur ton ordinateur? Moi, je vais lire ton beau petit papier.
OK.
Quelle bonne idée.
Je vais le retrouver.
Alors, voilà. C'est ça. Malheureusement, Shane Dix avait des petits problèmes intestinaux et il ne pouvait se joindre à nous sans nous quitter à toutes les 30 secondes. Alors, nous ne sommes pas assez de ses services pour cette fois, mais comme on se dit vers la fin de l'entrevue, on va probablement se reparler, nous et les auteurs de la trilogie Force Heretic.
Alors, on commençait avec la question, qu'est-ce que tu as fait depuis la dernière entrevue?
Eh oui, alors depuis la dernière entrevue, il est allé à Los Angeles, entre autres choses.
En plus d'écrire, comme d'habitude, ses romans.
Il est allé assister à une convention pour les futurs...
Les futurs espoirs de la science-fiction, quelque chose du genre.
Exactement. La science-fiction littéraire. Et il était invité pour... parce qu'il y a 10 ans, il a gagné le concours à cette fameuse convention-là. Et il a été invité pour montrer... Regardez où est-ce qu'il est rendu 10 ans plus tard.
Exactement. Regardez le succès qu'il a eu.
Le résultat. Lucasfilm l'a contacté.
C'est ça.
Il est devenu quelqu'un d'important. Et il a rencontré entre autres Kevin Jenderson qui était là-bas, qui expliquait, qui donnait des trucs aux gens. Il a rencontré quelques-uns des juges parce qu'il s'est déjà fait demander pour être juge à cette convention-là. Mm-hmm. Alors il a rencontré quelques-uns des juges maintenant et il est en train de songer à la... à la réponse à donner aux organisateurs.
Mais ils n'ont pas parlé avec Kevin J. de Star Wars.
Exactement. On lui a demandé plus tard dans l'entrevue si il avait parlé justement de la fate. Comment? De fate en anglais, là, sans français, cherche mon mot.
Le destin.
Du destin, exactement, des personnages introduits par Kevin J. dans la série NGO qui se faisait presque tous massacrer. Et justement, malheureusement, il a pas réussi à avoir son avis.
Exactement. Ensuite, c'est venu plus tard dans l'entrevue, mais il était supposé aller à New York, ou ça se peut-tu?
Il était supposé aussi partir à New York après son voyage à Los Angeles, mais il est revenu justement parce qu'il avait attrapé une petite grippe, alors il a décidé de revenir en Australie plutôt que ça. Avoir été à New York, il aurait été là en plein pendant... Le blackout, justement, la grosse panne de courant qui a eu lieu là-bas. Il dit qu'il aurait adoré être là, voir que ça avait l'air New York dans le noir total.
Mm-hmm. Ensuite, on a posé quelques questions Star Wars, bien sûr.
La nouvelle Tahiri,
ouais.
Qui sort de son coma et qui déclare une sorte de... qui fait des vœux de...
Attends, j'ai le mot exact, là, je vais le trouver.
Alors, là-dedans, c'est... Exact.
C'est pas...
un pacte de...
Non, mais... Merde. Prends la prochaine question, on va le trouver.
Une promesse de sauvegarde. Alors, prochaine question. Alors, Luc se pose plusieurs questions par rapport à Zonama Sekot, qui pourrait utiliser le côté obscur de la force et qui pourrait être utilisé en tant que super arme contre les Yuuzhan Vong. La première image que certains d'entre nous voyaient était comme l'étoile de la mort. On lui demandait s'il pouvait nous donner une idée sur à quel point Zonama Sekot pouvait être puissante. Comment est-ce qu'elle se défendait, comme on sait que nos héros étaient inconscients quand ils sont arrivés sur la fameuse planète après la bataille, puis il n'y a vraiment pas eu de description de la bataille.
On ne sait pas vraiment, ils l'ont pas montré comment qu'elle se défend la planète.
C'est ça.
On va sûrement le voir, mais ils voulaient cacher probablement la puissance de la planète.
Alors, il dit qu'effectivement, là, elle a énormément de capacités, de possibilités d'utiliser la force, mais... Elle se réfraint un peu. C'est drôle parce que Zonama Sekot, de la façon qu'elle parlait, c'est un petit peu comme une planète Jedi en tant que telle.
Ben, c'est cela.
Exact.
Dans le fond, elle utilise la force.
Et puis, même une très puissante usagère de la force.
C'est ça. Le mot qu'on cherchait, le life debt, c'est un serment.
D'accord.
Un serment de vie, ou je sais pas comment prononcer.
Il y a un autre mot, mais c'est pas grave. C'est des vœux de...
Vœux de vie, non?
Non, j'essaie de trouver le mot, c'est pas grave.
Honorer.
Une promesse de life debt.
Une promesse éternelle.
Exactement, de défense de la famille Solo. Et on parle maintenant de Tahiri, évidemment, qui sortait de son coma et qui faisait le serment à Jaina de faire...
De protéger elle et sa famille.
La protéger elle et sa famille à vie. Est-ce que c'était une façon d'honorer Chewbacca? À quelque part, oui, c'était justement une façon d'honorer Chewbacca.
Il le dit que c'était inconscient, mais ah oui, finalement, c'était ça.
C'est vrai que c'était pour ça.
Parce qu'il l'a pas fait par exprès, mais maintenant qu'on lui a mentionné, il dit oui, ça se pourrait très bien.
La prochaine question qu'on lui avait posée, c'était si la scène qu'on voyait sur la couverture de Reunion, c'était, vu que c'était pas une scène du livre... puis que c'est pas dans le sanctuaire de Boras.
Oui, c'est dans le sanctuaire de Boras, okay, l'image. Mais c'est pas la scène exacte, là, comme voir Tahiri pris dans les branches, puis Jason avec son lightsaber allumé. Cette scène exacte-là, elle n'est pas dans le livre. Ils vont à un endroit, puis les Boras ont des tentacules comme ça, etc., etc., mais il n'y a pas cette scène-là en tant que telle. Donc lui, je pense qu'il a répondu que...
Ce qu'il répondait, c'est que c'était dû à la créativité artistique.
C'est ça. Ils ont dit à l'auteur, il va y avoir Jason puis Danny dans une forêt avec des tentacules.
C'est ça.
Qui ont fait cette scène-là. Qui n'est pas vraiment dans le roman. Comme la couverture de Remnant, le premier roman de la trilogie, que tu vois Luke et Mara Jade dégainer leur pistolet et leur sabre laser, ce n'est pas une scène de la trilogie. Même que je pense dans la trilogie, Luke n'a pas dégainé son sabre une seule fois.
Alors, petit spoiler pour le dernier livre. Apparemment qu'à l'arrière, il y aurait Boba Fett. C'est peut-être une adaptation de l'auteur, de l'artiste qui a fait la couverture.
Non. Tu mets pas Boba Fett sur l'arrière de la couverture s'il est pas là.
S'il avait besoin d'un Bounty Hunter. C'est un très bon exemple de Bounty Hunter que tout le monde va reconnaître.
Ben oui, mais...
Retour à la traduction d'entrevue.
Ouais.
Alors, on se demandait si le fait que Tahiri portait maintenant des souliers, c'était une façon de signifier sa transformation de son être original à Tahiri fusionné avec Rina. Et justement, il disait que oui, c'était une petite façon de signifier que elle changeait quelques petits peu, puis qu'elle apprenait des traditions. Yuuzhan Vong, elle les mêlait avec ses traditions à elle.
Puis il sait avec les fans de Tahiri serait peut-être pas content, mais serait surpris.
C'est ça, il pourrait le voir, il trouverait que c'est subtil de montrer qu'elle porte maintenant des souliers. Puis qui sait, peut-être qu'elle va retourner à détester porter des souliers, vouloir toujours continuer sans porter de souliers.
Exactement.
C'est pas très joyeux pour une promenade sur la planète Hoth, mais c'est pas grave.
Ben, juste sur Tatooine, ça doit brûler pas mal. D'ailleurs, Tahiri, elle était sur Tatooine au début, mais peut-être elle devait pas être nu-pied dans ce temps-là.
Ça se trouve, peut-être qu'elle est comme les Hobbits. Qu'elle a une espèce de 2 pouces de cuir dans ses plantes.
Mais je pense qu'il mentionnait quand elle a fusionné, elle était en même temps un Yuuzhan Vong, un Jedi, puis quasiment un Tusken en même temps, parce qu'elle a été élevée par des Tusken Tahiri. Fait que c'est comme quasiment les trois ensemble.
Ce qui nous donne comme résultat d'avoir une guerrière démentielle utilisant la force, qui est capable, qui adore la douleur, et qui donc, si elle va marcher sur du sable brûlant, ça la dérange pas, va l'accepter.
Ouais, c'est ça. Ouf. On demandait aussi si la nouvelle naissance de Tahiri, son nouveau lui-même, elle est développée
dans les deux prochains,
vu que, étant donné qu'elle est un mélange de Jedi et de Yuuzhan Vong, est-ce qu'elle est l'arme la plus puissante contre les Yuuzhan Vong? Il a dit, je ne peux pas le dire.
No comment.
Exactement. Mais c'est probablement oui. Tu sais, ta voix sur la couverture de Unifying Force et de même avec son lightsaber, avec son sabre laser.
Je suis sûr que les gens
les
voient
mains.
Que t'as les bras croisés avec
ouais.
le sabre laser.
Elle a les bras croisés avec le sabre laser. Peut-être la webcam peut me catcher sur le côté un petit peu, mais avec son sabre laser, avec le lemblant, l'espèce de cristal Yuuzhan Vong qu'il y a dans le. Fait. Ça pourrait être intéressant à voir.
Dangereuse.
Ouais. Ben, juste son visage sur la couverture, c'est un visage de Don't mess with me.
Make my day.
Ouais, c'est ça. C'est un peu ce visage-là. Donc, elle n'est plus la théorie qu'elle est.
D'accord.
Qu'elle était.
Alors, à part Rogue Planet, où est-ce que vous avez trouvé l'inspiration pour.
Rogue Planet. Ouais, finis ta question.
À part que la que Planète Rebelle, c'est ça en français?
Oui, c'est ça. C'est ça que je voulais dire, le titre en français.
Autre que Planète Rebelle, c'est où on se demandait où est-ce qu'ils avaient trouvé l'inspiration pour toute la flore, la faune, les animaux sur Zonama Sekot. Et il a dit que c'est vraiment dans Rogue Planet qu'ils sont basés pour faire justement la faune, la flore, tout ça. Il y a eu beaucoup.
Le reste,
c'était
du brainstorming.
C'était
du brainstorming.
Beaucoup de
des discussions,
de réflexions,
etc. Des réflexions,
des discussions avec Lucasfilm Licensing. Et puis, il fallait qu'ils ont renvoyé plusieurs idées, ils se sont fait renvoyer plusieurs idées.
Et beaucoup de fignolages.
C'est ça. Alors, je lui demandais s'il avait été se promener dans les bayous australiens pour s'inspirer un peu. Il a dit non, effectivement. Et puis,
il habitait dans un coin où est-ce que les buissons n'allaient pas plus haut qu'un mètre.
C'est ça. Lui, il est né dans la ville, il a toujours vécu dans la ville. Et il s'imagine mal comment se perdre dans une forêt. Alors, c'est sûr que dans les moments comme ça, c'est pas évident de.
Il s'est inspiré du moment, du temps qu'il avait été au Skywalker Ranch, qu'il y avait les grands arbres, les Redwood, qu'il disait. Les
séquoias rouges, je crois.
Ouais, les gros arbres là, très, très gigantesques. Là, à la Endor.
Mm-hmm. Attention, si vous allez au Skywalker Ranch, regardez dans les arbres, pour y voir des Ewoks.
Ils vont vous sauter dessus. Ouais.
Ils vont vous garocher des roches.
Bon, au début de Reunion, il y a une scène classique de Han Solo, où est-ce que le vieux scoundrel, comment qu'on dit, un canaille, ou je sais pas trop,
canaille.
La vieille canaille de Han Solo est en train de jouer du sabac dans un bar. Je lui ai demandé, est-ce que t'as eu du plaisir à écrire cette scène, parce que juste la manière que c'est écrit, on a l'impression qu'il y a eu du plaisir à l'écrire. Puis est-ce qu'il était un fan de Han Solo quand il était plus jeune? Il a dit oui, il a dit c'est lui qui a écrit la scène.
C'est même pas Shane, c'est ça. Il l'a écrit sans en parler à Shane. Mm-hmm. Puis il l'a envoyé à Shane, puis Shane il l'a trouvé très très bien.
C'est ça. Il dit que c'était une espèce d'hommage au vieux Han Solo du temps de Star Wars A New Hope. Là.
Exact. Puis il s'est dit, bon, inquiète-toi pas, ça passera probablement pas avec Lucasfilm. Parmi d'ailleurs d'autres choses qui sont passées dans ce livre-là. Et ça s'est passé quand même avec Lucas Licensing.
C'était plus, je pense, le nouveau type de sabac, entre autres.
T'as le.
Ouais, ok. Non, mais je parlais dans cette scène-là.
Dans le même type, ouais.
Il parlait du nouveau type de sabac qui pensait pas que ça passerait, mais ça a passé. C'est bizarre la manière.
C'est la racine cubique du nombre 23, là.
Ouais, c'est ça. Tu l'as lu un petit peu, réussi à trouver la page.
Non, c'est parce qu'il en a parlé tantôt pendant
c'est ça.
L'entrevue. Mais apparemment que son chiffre préféré, c'est 23, comme mon âge, depuis jeudi dernier. Et il dit qu'il nous parlait justement que c'est une des grosses questions mathématiques. Il aime beaucoup ça, faire des mathématiques, alors c'est pour ça qu'il a développé ce nouveau type de
sabac. C'est ça, il dit, so you're saying that we can use any arithmetic operation we like, we can divide, subtract, multiply. Tu peux faire n'importe quelle opération mathématique pour obtenir ton chiffre réponse. Fais-tu une dérivée ou une intégrale, là?
Aïe, aïe.
Comment c'est
loin.
On s'en va dans les maths pas mal. Mais il a dit, Sean, qu'il aime beaucoup les mathématiques. Donc
On réajuste à quel chiffre là? 3, 5, 7.
Ok. Ensuite, il y a la mention de Zonama Sekot qui apprend de la technologie Vong. C'est que la mention dans le roman, si je me rappelle bien, c'est que en regardant les vaisseaux Vong, il a amélioré ses propres vaisseaux. Dans Rogue Planet, il y a les Seed Ships, comme ils appellent, les vaisseaux qui font pousser, grandir. Et puis, probablement qu'en étudiant les vaisseaux Vong, il a amélioré la technologie de ces vaisseaux-là. Puis on apprend que dans le roman que un des commandants Yuuzhan Vong qui a découvert la planète puis qui a ramené un morceau de la planète à Shimura. Donc
c'est quoi, il ramène une touffe de gazon de 2 pouces par 2 pouces?
Je sais pas. C'est pas décrit vraiment là. C'est juste au niveau d'une rumeur encore. Mais j'ai demandé, est-ce qu'on peut supposer que les Yuuzhan Vong vont faire du back engineering, comment tu dis, vont se servir de peut-être pas de l'ADN de la planète, mais vont être capables de refaire
une zone à Massécotte,
quelque chose du même genre, étudier là, comment que la planète fonctionne, puis être capable de. Donc, là, il a pas vraiment répondu, il savait pas nécessairement.
On va débattre sur zone à Massécotte après.
Ok. On va avoir du fun. Ben, regarde, j'ai quand même ça à parler, puis on en vient à Zona Mosekot, le rôle de Zona Mosekot pour la suite. Qu'on en parlera là.
Exact.
Ok.
Alors, on lui a parlé du fameux, de la matière.
Noire.
Ben, j'essaie de voir.
Matière obscure.
Non, j'essaie de voir en français.
Invisible, noir.
Non, c'est.
L'antimatière.
L'antimatière.
Ben, c'est pas vraiment de l'antimatière parce que ça se désintégrerait. L'antimatière de la matière qui se...
Ben, en tant que tel, c'est un peu... En tout cas, c'est comme l'antimatière.
C'est le même, ouais, c'est ça.
C'est basé sur l'antimatière, si vous voulez, là, en français. C'est... Apparemment, il y aurait de l'antimatière qui serait en train d'absorber un peu, justement, la galaxie Star Wars.
Ben,
ce qui créerait...
La description que je me rappelle, c'est... Les deux, t'as la galaxie très très lointaine là, de Star Wars, puis il y a une autre galaxie qui serait en collision avec la galaxie, mais c'est une galaxie invisible à l'œil nu, c'est en antimatière. Puis il y a des ouvrages par rapport à notre propre galaxie, la Voie lactée, qui aurait aussi une galaxie, peut-être pas d'antimatière, mais de matière noire, si on peut dire, qui serait en collision présentement avec notre galaxie.
Une galaxie de trous noirs, bref.
Ouais, un truc du genre, là. En tout cas, c'est très scientifique. Puis la question, c'était quoi?
La question, c'était, est-ce que c'était lui qui avait amené ça? Puis est-ce que c'est important pour le restant de la série? Est-ce que c'est une réponse aux origines des Yuuzhan Vong? Il a répondu non. Il a aussi répondu que justement c'est parce qu'il avait pris ça dans des livres, des revues scientifiques qu'il lisait à ce moment-là, puis qu'il trouvait ça intéressant, fait qu'il avait apporté ça. Puis justement, c'est une bonne façon d'expliquer le fait que quelqu'un peut sortir de l'hyperespace.
C'est ça, ça explique les difficultés d'explorer les régions inconnues, parce que quand tu pars en hyperespace, tu vas souvent rencontrer cette matière noire-là qui va te sortir parce que ça a une signature, c'est invisible, mais ça a une signature gravitationnelle. Donc, ça va faire comme s'il y avait une planète, puis oups, tu sors de l'hyperespace, mais tu vois rien. C'est antimatière, la matière noire, mais c'est ce qui ferait que les régions inconnues seraient moins explorées, parce que tu as de la difficulté à te promener dans ces régions-là en hyperespace. Fait que les distances sont difficiles à faire.
Exact.
C'est une théorie seulement que lui a insérée, c'est pas nécessairement vraiment ça. Ça sera peut-être pas suivi non plus comme théorie, mais
non, c'est ça.
C'est un moyen de mettre de la science dans Star Wars sans trop en mettre.
C'est ça, on l'a d'ailleurs remercié justement pour mettre de la science comme ça dans Star Wars tout au long de la série Force Heretic. La prochaine question, c'est par rapport à Jason.
Non, j'ai pas. Ah oui, je vais le poser quand même.
Oui. Il y a un X à côté, c'est à fait.
Ok, c'est ça. je parlais que Jason, j'avais l'impression en lisant Jason qui était revenu au Jason de Balance Point qui chialait puis qui n'arrêtait pas de bitcher sur le fait que il faut pas utiliser la force, j'abandonne la force parce que je veux pas l'utiliser. J'avais l'impression qu'il revenait un peu à ça après avoir vu les actions dans Destiny's Way puis Traitor. Destiny's Way, la bataille de E-Back, où est-ce qui tue quand même des Vong, puis dans Traitor, où est-ce qu'il tue plein de Vong dans une des scènes, dans l'espèce de pouponnière de World Brain,
okay.
sur Yuuzhan'tar, je crois, où est-ce qu'il tue plein de Yuuzhan Vong. Fait on voyait que Jason, avec les enseignements de Vergère, avait changé. Il était moins
flou,
têteux sur la force, il l'utilisait. Les mauviettes, bon, ok.
Exact, c'est une petite mauviette.
Ok, il l'utilisait, puis il se défendait avec son sabre laser, mais là, dans celui-ci, il arrive, puis oui, il y a plusieurs personnes qui sont mortes, puis etc., mais tu sais, même Luke, il dit oui à Zona Mosekot de l'aider, mais Jason dit non, il y a une autre façon.
On n'a pas besoin de ton aide.
Ça, il est revenu un peu. Oui, il y a d'autres choses que la force. Il faut pas juste utiliser la force.
C'était comme son sinus jusqu'au retour de la série, là, où il était un petit peu plus chialeux. Puis, hein.
Exactement. T'sais, il y a autre chose que la force. La force est là, mais t'es pas obligé de l'utiliser. C'est ça que Jason, c'est ça son comportement. Ok, ensuite.
Il y a plusieurs fans qui sont très anxieux de voir Danny Quay et puis Jason finalement
sortir ensemble.
Sortir ensemble, faire un couple.
Y a-t-il une raison pourquoi que la relation prend tant de temps à décoller, à part Jason à être complètement aveugle? je me rappelle dans Refugee, dans le livre précédent, il y a une scène dans la librairie, ils sont à la recherche de Zonama Seca dans les enregistrements, puis ils sont complètement bouchés, ils ont aucune idée,
ils sont bloqués.
Là, Jason il est tellement frustré, il s'en va en haut d'une bibliothèque à quelque part sur un autre étage, puis là Danny arrive à côté de lui là, c'est hey Jason n'inquiète pas, puis vraiment là tu allume,
c'est ça,
c'est vraiment là tu, puis c'est quasiment juste il s'embrasse pas, puis là Jason il est là, puis là la scène finit, Jason a un flash puis il court en bas, tu sais, Danny Quay est là, ah, ok,
bon j'ai manqué ma chatte.
Exactement, c'est là que Jason a trouvé l'idée de comment retrouver Zonama Seca vraiment. Mais tu sais, tu vois que on a hâte. Oui, il y a autre chose de plus important, la guerre, etc. Il y a d'autres problèmes à régler qu'avoir une copine là, tu sais, mais quand même. Mais d'un autre côté, je suis content que dans cette trilogie là ils ont peut-être pas développé Jason puis Danny Quay, mais ils ont développé beaucoup Jag et Jaina. Et eux autres, je vais en parler quand même de tantôt, là, mais je veux dire, ils ont vraiment, la relation est officielle pratiquement. Là, c'est vraiment.
Comme je disais d'ailleurs, pour les termes de la conspiration, on peut dire que Danny Quay et Jason vont. Danny Quay va peut-être finalement. Et Jason vont peut-être finalement sortir ensemble, mais Danny Quay va mourir. Puis ça va faire comme glitcher Jason. Puis là, il va virer vraiment plus Dark Side. Puis.
There is no dark side.
Oh, right. It's only
d'après Bergère. C'est ça, The Force is One.
Exactement. Fait que là, il va finir par utiliser les mauvais côtés de la force.
Ouais. Son cœur va être noir, donc il va utiliser le.
Il va virer méchant.
Bon. Grosse théorie ici, là.
Eh oui.
Ok. Ensuite. Bon, l'autre solution que Jason recherche, la solution sans utiliser la force, est-ce que. Ce serait les hérétiques de la force que Nomanor est en train de créer. Il a dit, bon, possiblement, maybe,
peut-être.
Fait que ça veut peut-être dire qu'on est sur une bonne voie, mais ça veut pas dire exactement que c'est ça. Pendant la bataille d'Esfandia, ok, oui, on y a mentionné une grosse erreur d'écriture.
Un gros typo.
Un typo, c'est plus qu'un typo, il s'est trompé complètement de vaisseau. Ils se sont trompés de vaisseau. Le Widowmaker, qui est avec le groupe de Luke, et puis t'as le Pride of Celonia, qui est avec le groupe de Han Solo. Puis la scène se passait autour de la planète où est-ce que Han Solo était. Et puis, ils ont dit, bon, qu'il y a un vaisseau qui arrive, puis c'est le Widowmaker. Mais le Widowmaker, il est à l'autre bout d'une région inconnue avec Luke. Puis là, il aurait fait tout le saut jusque.
C'est Zonama Seca qui l'a magiquement envoyé, puis qui l'a ramené, puis qui a renvoyé l'autre vaisseau.
Exactement. Donc, c'est une grosse erreur qu'ils ont fait. Ça arrive à tout le monde. Même les gens de chez Lucasbook l'ont pas vu. Donc, tu sais, les gens de Lucasbook, c'est supposé être les goalers, les gardiens de but. Tout ce qui passe, la défense, ben, les goalers sont supposés l'attraper.
C'est ça.
Mais ils ont pas fait leur job.
Ils ont mal goalé.
Ouais, c'est ça.
Ils ont perdu la Coupe Stanley.
Ok.
La prochaine question, c'est non. Par rapport aux Cold Ones.
Les je sais pas comment ils vont traduire ça. Les froids. Les froidus.
Les froidis.
Les refroidis.
Les glacés.
Les glacés, ouais.
Les popsicles.
Mais gars, Shame One, ils les appellent les honteux, je crois, en français.
Ok.
Avec les Cold Ones. Les gelés. Les congelés.
On sait pas tout ce qui. C'est quoi la faune et la flore sur cette planète encore, fait que. Dieu seul le sait. Mais alors, ça serait donc
les bruns.
Quelque chose de même, là. C'est le modem talk.
C'est ça, c'est le.
Ce qu'on a failli par comprendre, c'est que ce serait La fameuse race qu'on n'est pas capable de prononcer le nom, les BRRLWP, ce serait en fait la façon que le modem parle à l'Internet quand il envoie son requête.
Cette race, ces 3PO mentionnent que cette race-là parle en trinary, c'est comme en binaire, en trinaire.
En trinaire.
En trinaire. Et puis, l'ancien dirigeant de la base de communication a enseigné ça à cette race-là. Le trinaire.
Et, voilà.
Et puis, il communiquait beaucoup avec eux autres de cette façon-là. Donc, lui, il a comparé le trinaire avec quand on branche notre modem, le son de branchement. Espèce de son weird, là.
Pour ceux qui ont des 50K, évidemment.
Exactement.
Ça serait donc de ce son-là que vient l'inspiration pour le nom des Cold Ones.
Ensuite, le rôle de Jason dans Reunion et dans la trilogie Force Hérétique semble indiquer qu'il va probablement être le maître Jedi, le Jedi le plus important quand Luke ne sera plus là. Il a dit oui, il y a une philosophie qui est un peu comme Obi-Wan, qui est vraiment plus réfléchi. C'est celui qui se questionne le plus sur la Force, exactement. D'autres, on a suggéré, bon, Jaina est plus comme un Jedi traditionnel qui est porté plus sur l'action, tandis que Jason est plus du genre Yoda ou Mace Windu. Ben, Mace Windu, il se bat quand même beaucoup, mais plus réfléchi, il réfléchit plus sur le côté de la Force, etc. Donc, voilà sa réponse.
Une petite différence quand même.
Bon, le titre de la trilogie Force Hérétique, j'ai dit, après avoir lu les trois romans, il n'y a pas beaucoup de mentions.
Ils sont où les hérétiques?
les hérétiques, on en parle, on le sait que Nomanor les dirige, qu'ils deviennent de plus en plus gros et de plus en plus forts. Le mouvement est très fort et très gros. Sauf qu'on n'apprend pas beaucoup plus que ça. Pourquoi qu'ils ont nommé ça Force Hérétique? Ils auraient pu nommer ça avec un titre qui représente davantage la recherche de la planète. Zonama Sekot, il a dit, ben,
the Trilogy of the Last Planet, quelque chose comme ça.
Puis il a mentionné, ben, Jason peut être considéré comme un hérétique de la Force parce qu'il pense différemment des autres.
Et après ça, on lui a aussi dit, par rapport à Tahiri, justement, qui devenait une demi-Yuuzhan Vong au long de la série, puis oui, effectivement.
Ça peut être ça.
Elle peut être, elle aussi, considérée comme étant une hérétique de la Force.
Ensuite,
y avait-il quelque chose que Lucas Book voulait, que vous vouliez, que eux voulaient ajouter dans les livres, mais que Lucas Book ont dit non? Alors,
il a mentionné dans Refugee, ceux qui s'en souviennent, le premier ministre Condertall avait vendu Bakura au Siruk, qui étaient les Yuuzhan Vong, en guillemets. Il avait vendu Bakura au Siruk en échange d'avoir le technicien de son arme dans un Human Replica Droid. Là, une des scènes qui est enlevée, c'est comment ce Human Replica Droid avait été trouvé, ou de quelle façon qu'il devenait la possession du
président.
Ouais, du premier ministre.
Du premier ministre, c'est ça.
Puis il a dit qu'il avait introduit un ancien personnage qui était devenu justement comme... qui était devenu
un HRD.
Ouais, exactement. Ils ont dit qu'ils ont enlevé ça. C'est une bonne idée parce que Condertall soit un droïde de réplique humaine, bon.
Exact, un robot.
Ouais, exactement. Ça a été une surprise quand même pour beaucoup, là. Dans Refugee, c'était comme un des. On se demandait à la fin pourquoi que Jaina, il avait coupé un bras puis il saignait pas, puis en voyant le bras, elle a vu que c'était un robot, là.
Mm-hmm.
Donc, tu sais, on se demandait comment ça se fait qu'il était capable de courir aussi vite que Jaina, qui se servait de la Force pour courir, t'sais. Donc, c'est quelque chose qui a été enlevé, fait que ça a caché un peu le...
Ça l'a juste donné... Gardé la surprise. Aidé, ouais. C'est ça, la surprise pour la ligne. Alors...
Bon, comment qu'il a écrit... il considère la trilogie au complet, comment qu'il a fait l'approche de son écriture, etc., la direction de chaque livre, il a pas répondu de façon complexe. Il a dit, bon, on savait le début et la fin. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? On y a été pratiquement livre par livre.
ça, on a fait quelques petites lignes de guide.
Il y a eu beaucoup de recherches pour certains côtés, comme Refugee, bon, mais c'était plus de la recherche sur Trussat, Bakura, etc., les Siruks, etc. Les autres, bon, c'était sur les autres sujets, mais il y avait un début et une fin. Ils savaient exactement qu'est-ce qu'il fallait que ce soit à la fin. Il a mentionné la scène finale de Zona Moseka, donc on sait que la fin c'était scripté par les éditeurs, puis qu'est-ce qui se rendait là, ben c'était up to them, là.
C'était à eux de l'écrire.
Exactement.
Alors on lui a demandé si les événements qui avaient lieu dans le monde avaient
tendance, monde réel ici on
dans
parle
le monde réel là, avaient tendance à affecter la façon d'écrire des auteurs. Et puis il disait que oui, quelque peu justement. Ça va faire, je pense, c'est un an qu'il n'est plus avec son partenaire. Et puis, ça, dans les quelques derniers livres de fantasy qu'il a écrit, ça, apparemment que ça ressortira un petit peu, il écrit un petit peu plus sombre, et voilà, mm-hmm. des choses comme ça. Quand il y a eu le 11 septembre, évidemment.
Mais lui, il l'avait écrit avant. Donc, c'est ce qu'il disait, il l'avait écrit avant. Je pense que c'était Force Heretic le premier, je me souviens pas. Mais il avait écrit quelque chose avant que ça se passe.
C'est ça.
Puis après, en lisant son livre, il dit ouais, c'est comme le 11 septembre, ça.
C'est ça.
Je peux comparer ça à Star by Star, étoile par étoile. Quand le livre est sorti, il est sorti pratiquement en même temps. Il est sorti en octobre 2001, là, un mois après. Puis dans Star by Star, c'était l'attaque sur Coruscant des Yuuzhan'vong, puis t'avais des Coruscapers qui s'écrasaient dans les buildings, t'sais. Mais Starbuster a été écrit au moins un an d'avance, là.
Beaucoup avant, c'est ça.
Il y en a qui disaient, est-ce qu'il faut retirer les romans à cause de ça, à cause de l'imagerie, puis là ils ont dit non, c'était écrit avant, écoute là.
C'est ça, faut vivre avec. De toute façon, ça s'en ira pas. Mais c'est ça. Puis même d'ailleurs, fait comique par rapport à ça, Danny, c'est que plus loin, je lui demandais si il considérait un peu New York comme étant Coruscant sur la Terre. Puis il fait un petit peu, évidemment. quand même pas la capitale mondiale.
Ensuite, on lui a posé des questions rapides. On reviendra sur celles que tu as posées après. J'y posais une phrase ou un mot. Il fallait qu'il réponde si c'était oui ou non. Écrit dans la Bible.
Ou peut-être.
Peut-être. Si c'était écrit dans la Bible, NGO. Bon, j'ai mentionné le fait que les Vong ont amené un morceau de Zona Moseka à Shimura. Il était pas certain de la façon de répondre, mais il a répondu oui dans les livres futurs. Puis là, il a dit non, présentement. Il dit oups. Ouais, il s'est quasiment trompé. C'est ça, il n'avait plus l'air sûr. Mais il a dit oui, c'est mentionné. Donc, c'est pas eux qui ont inventé ça. Donc, c'est un élément important qu'un morceau de Zona Moseka se retrouve dans les mains des Yuuzhan'vong. Donc, ils vont s'en servir, assurément.
Pom, pom.
Exactement. Ensuite, Alpha Red, le super virus contre les Yuuzhan'vong qui éliminerait tous les Yuuzhan'vong en deçà de 2 semaines. Et puis, cependant, la peur que l'Alliance Galactique avait de l'utiliser était que c'est un virus qui ressemblait étrangement à des virus humains, et puis le virus aurait pu être en mutation et puis ensuite éliminer les humains à la longue, en plus. Donc, c'était une peur qu'il y avait de ne pas l'utiliser.
Pas la meilleure arme à utiliser.
Il a dit oui, c'est dans la Bible, Alpha Red.
Et oui.
Walter John William aussi nous l'avait dit que c'était dans la Bible.
Exactement. La fameuse matière noire, l'antimatière, alors non, pas du tout.
C'est son invention. Ben, c'est lui qui l'a implanté dans le roman.
Exact.
Le réseau des Rines, je me souviens pas sa réponse. Il a dit, peut-être, je m'en souviens pas, ça fait longtemps.
C'est ça.
C'est ça qu'il a dit. Il pense que oui.
Il pense que oui, mais il était pas certain. Donc, exactement. C'est un peut-être.
Il dit, est-ce que le destin de tous les personnages principaux sont inscrits? Il dit oui. tous les personnages principaux qui meurent, ou le destin, mettons, Tahiri survit, Luke survit pas, peut-être, on sait pas. C'est Jason vrai. Survit, etc., etc.
Mara.
C'est ça.
Est enceinte et survit.
Exactement.
Non!
Et puis, bon, tes questions ensuite?
Alors ça, moi j'avais demandé s'il avait parlé justement de Star Wars avec Kevin Jenderson pendant qu'il était à Los Angeles. Il a dit que non, il n'avait pas eu la chance. Par rapport au Power Blackout de New York, je lui avais demandé où il était quand les lumières se sont éteintes. Alors, lui, il était de retour en Australie, justement, et puis il a vu ça. Et je lui ai parlé du fait que j'ai des amis à Niagara, justement, qui disaient avoir vu des vaisseaux Yuuzhan Vong survoler les centrales un petit peu. Et il a trouvé ça très, très drôle. De là est venue la question, justement, par rapport à Coruscant, New York.
Mm-hmm.
Qui se ressemble quand même un peu, d'ailleurs.
Ben, c'est comme la ville la plus citadine, la plus...
C'est les gratte-ciels. C'est une ville qui a rien de vert, sauf une grosse montagne au milieu. La même affaire pour Coruscant.
Il y a Central Park.
C'est cela. Alors, on a vu qu'il y avait quelques affinités avec le jeu du sabacc. Alors, je lui ai demandé s'il avait envie un jour de voir un jeu de sabacc fait pour les fans de Star Wars. Puis, il dit que oui, tout à fait. Je lui ai demandé s'il aimerait ça faire partie de la conception de ce jeu-là. Il dit qu'il en serait effectivement très intéressé. Mais, comme qu'on dit, c'est probablement... Un
jeu plus intéressant dans l'imaginaire qu'en réalité.
C'est ça, parce que sinon c'est un méchant mal de tête à essayer de trouver toutes les
combinaisons
de règles possibles et impossibles. Puis par rapport aux Cold Ones, je lui ai demandé s'il connaissait la série Reboot, qui est en français.
Reboot?
Non, c'est non? Pas Reboot, c'est
Chargé, non.
Mais c'est quoi en français le nom de cette série-là, zut? Mega... Mega Frame? Non, je n'ai plus de pente.
J'ai aucune idée.
Enfin bref, pour ceux qui connaissent la fameuse série Reboot de Mainframe, qui est une compagnie de Vancouver, vous pouvez faire le lien entre les Cold Ones qui parlent comme des modems et les Netsurfers justement qui parlaient comme des modems. Alors je me demandais s'ils étaient inspirés d'eux et non, apparemment. Non, pas du tout. Voilà, c'était mes questions.
Oui, et puis on a terminé avec, bon, s'il y a un message à donner aux fans de Star Wars, etc. Il a dit, ben, c'était bien le fun d'écrire des romans dans l'univers Star Wars. On était des fans aussi avant d'écrire. On était des fans de longue date, etc. On espère que vous avez aimé ça. On espère travailler encore pour l'univers Star Wars et d'autres écritures, que ce soit... pour l'insider qu'on a suggéré ou peu importe.
Justement, c'est cela.
Etc. Et puis il a dit ben, qu'il espère avoir une autre entrevue avec nous éventuellement pour d'autres choses qu'il va avoir fait dans l'univers Star Wars.
Exactement. D'ailleurs, on lui avait demandé, parce qu'il avait mentionné qu'il avait lu beaucoup de livres depuis qu'il était tout jeune, fait qu'on lui avait demandé s'il collectionnait les livres. Et ou d'autres items Star Wars. Alors il dit que non, en fait, il en a déjà collectionné quelques-uns, mais maintenant c'est la majorité de ses amis qui les ont. Lui, il y a encore le livre Splinter of the Mind's Eye d'Alan Dean Foster qui est le livre qui est l'ouverture sur l'univers étendu de Star Wars. Et on lui a demandé s'il y avait des figurines. Des figurines 3 pouces 3 quarts qui seraient créées de Tahiri ou des Yuuzhan Vong, s'il aimerait s'en avoir. Il dit qu'il adorerait avoir une figurine de Nomanor, une figurine de Tahiri. Ça serait vraiment super cool d'avoir des figurines comme ça.
Exactement. Et c'était la fin de l'entrevue. Maintenant, qu'est-ce que je pense du roman, moi?
C'est-tu bon, ce roman-là? Ça vaut-tu la peine?
Reunion, ouais, on a parlé beaucoup de la trilogie en général. C'est le meilleur des trois livres, les trois romans, en tant que tel. Je dirais que Remnant sera en deuxième, selon moi. Refugee, je ne l'ai pas nécessairement aimé. J'ai moins connecté avec parce que c'est plus un roman isolé. Puis j'ai jamais adoré trop cette Bakura. Donc, le fait de revenir sur Bakura
ça t'a
me laissait un peu
froid.
Froid, exactement. C'était pas le même genre de roman, il était différent là. Moi, c'était plus le côté recherche de Zunama Sekot que je trouvais intéressant. Bon, ce roman-là amène beaucoup de valeur à Rogue Planet, à Planète Rebelle, car il y a beaucoup beaucoup de liens avec ce roman-là. Ça rend vraiment Planète Rebelle, Rogue Planet, le numéro 0 de la série NGO. Après ce roman-là, c'est encore plus vrai. on savait que les Youth and Vong avaient eu leur première apparition dans Crimson Empire 2, mais officiellement dans le temps de Rogue Planet, qui se passe avant Crimson Empire. Et puis...
Puis même maintenant, d'ailleurs, on va glisser un petit mot d'une entrevue qu'on a eue avec le producteur du jeu Knights of the Old Republic, qui voudrait que... Ça se pourrait effectivement qu'il y ait eu une rencontre avec des Yuuzhan Vong, mais il ne pouvait pas le confirmer.
Alors, 4000 ans avant.
Exactement. Alors, pour ceux qui voudront en connaître plus sur cette entrevue, surveillez swendirect.com.
Ouais.
Et, petite parenthèse, merci Pillsbury du chat, le nom de Reboot en français c'est Megabug.
Quoi?
c'est la traduction.
Ça devait être traduit en France.
Je préfère continuer là.
Ouais. OK. La nouvelle Tairi, maintenant, elle a des souliers.
La nouvelle Tairi apporte des souliers.
Exactement, elle est beaucoup plus confiante. Ça se voit dans la manière qu'elle parle. C'est comme si elle avait maturé complètement d'un seul coup. C'est un bon mélange entre les Jedi et Guerrière. Tu vois qu'elle est vraiment imbattable maintenant. Là. Elle est vraiment puissante. Là. Ensuite, la mention que première fois que Jack dit « Je t'aime » à Jaina. OK, Jaina était dans le coma, mais il le dit pareil. Puis Jaina, quand elle sort du coma, elle mentionne « Je t'ai entendu » quand même.
Oh.
OK. La relation entre Jason et Danny, j'en ai parlé un peu. Je trouve que Jason est aveugle un peu. C'est peut-être voulu qu'ils ne soient pas ensemble tout de suite. Donc, on verra. Ceux qui se rappellent, dans Remnant, t'avais un duel vocal entre Palaeon, le grand amiral Palaeon, et un des commandants Yuuzhan Vong, Vorik, le commandant Vorik. Et puis, finalement, il réussit à... Vorik, il s'en va, il retraite. Pas capitulé, mais...
Il part en retraite.
Et puis, il se retrouve encore une fois face à face dans Reunion, et cette fois-ci, encore une fois, Palaeon parle avec lui pour
le dissuader.
Le dissuader ou le... Pas le niaiser, mais en français, tu dis l'insulter, etc. Et puis, encore une fois, il perd tous ses gonds, et puis, à la fin de la bataille, il décide de faire sauter son vaisseau pour essayer de Ils vont mourir, mais ils vont mourir en emportant quelqu'un. Sauf que Palaeon avait prévu le coup. Il avait monté ses choses au maximum juste avant. Et voilà. Mais c'était intéressant à voir encore le duel de voix. Là. Palaeon qui insulte l'autre. L'autre, il réagit tout frustré.
Il manquait juste quelques spots, une scène, des lumières, puis un micro, puis une petite musique de rap en arrière. Là. Puis on avait un 8 Mile dans Reunion.
Attention. l'erreur de Widowmaker puis du Pride of Celonia, on en a parlé. Erreur majeure. Mais, tu sais, ça arrive.
C'est la magie de Zomnama Sekot qui a voulu ça.
Bon. la description de Zomnama Sekot, il y a beaucoup de détails, un peu comme la planète Cilia qu'ils ont introduit dans Refugee, la planète de glace des schistes. Beaucoup de faune. C'est vraiment bien décrit. Ils nous montrent des nouvelles espèces, des... On sent vraiment le terrain, même qu'il y a des maisons. Quand ils ont fait la description, ça ressemblait à un champignon. J'ai dit que non, c'est des maisons de Schtroumpf ou de grandeur géante, là. Mais en tout cas, c'était très descriptif, là.
Ils peuvent avoir des noms bizarres.
Ensuite, j'ai mentionné la couverture. On a mentionné aussi la couverture qui était différente. On en a parlé. Luke et Jason qui n'ont pas la même réaction. Luke accepte de l'aide de Sekot, mais Jason la refuse. Jason croit qu'il y a une autre solution.
Heureusement qu'elle s'est pas basée sur ces deux-là pour faire sa décision. Hein.
elle a accepté Luke. Que Luke a dit oui, puis elle a suivi Luke. Jason a dit non, puis il dit qu'il y a une autre solution. Probablement qu'il va avoir raison, Jason, dans les deux prochains. Probablement. C'est sûr, parce que tout le monde, je regardais les forums de The Force, puis ça paraît que c'est des Américains qui sont tous contre Jason. Ils disent, non, faut rentrer dans le tas, ils ont tué des millions de personnes, faut toutes les éliminer.
Ok.
C'est un peu, en tout cas, c'est pas une pensée ouverte autant que.
Exact.
Que le reste du monde. Soit. Ouais, exactement. C'est une seule direction, sens unique.
Les ailleurs, let's go, on suit la route droite devant nous.
Bon. Finissons la politique. La présence de Vergeur et Anakin Skywalker, et non Solo, Anakin Skywalker, quand il était jeune, à l'âge qu'il était, quand c'est 12 ans quand il était dans Rogue Planet, et puis on le voyait vraiment, tu pouvais vraiment voir Anakin, le jeune Anakin, qui était le même, à un moment donné, Sekot, je sais pas comment elle l'a fait pour le savoir, mais elle sort un wizard.
Okay.
Anakin, c'est une des expressions d'Anakin, wizard, quand pour dire cool ou. Puis Zonama Sekot a sorti ce mot-là. Tu voyais vraiment le petit être qui parlait à Luke. Là.
Tant qu'il n'y a personne qui me sort un yippie!
Ouais, c'est ça.
ça serait drôle justement. La planète, elle se fait sauter, elle fait tout sauter les Gizenvang. Puis là, t'entends.
Et ça, mais on pouvait vraiment les voir. Les descriptions étaient là. Puis vu qu'on on sait de quoi a l'air Anakin à cet âge-là ou approximativement. Imaginez le petit Jedi dans la célébration à la fin de l'épisode 1. Bon, imaginez-le un petit peu plus vieux. En gros, c'est ça. Bon. Là, c'est peut-être le côté plus négatif. La valeur de la série Force Heretic, la valeur de la trilogie Force Heretic dans NGO. Moi, je dis que ça aurait pu être facilement une duologie. Il y a beaucoup de longueur. La portion de Han, Leia et compagnie aurait pu complètement être ignorée. Parlez-en même pas. Laisser Léa puis Anne sur Mont Calamari, là, c'est pas important. Le but ici, c'est de trouver la planète qui va solutionner le problème. Puis là, on dirait qu'ils ont été forcés à utiliser Anne puis Léa, puis ils ont mis Tahiri dans le paquet. Puis c'est à ce moment-là, ils se sont servis de ce côté-là pour solutionner le problème de Tahiri. Mais Tahiri, il aurait pu solutionner le problème même si Tahiri aurait été dans le groupe de Luke. Donc je considère que ça aurait pu être une duologie, aurait pu couper ça, Anne, puis certains, on n'aurait peut-être pas vu Jag ou Jaina, ou peu importe. Le côté de Anne a aidé à développer Tahiri, puis la relation Jaina et Jag, mais la partie sur Bakura, aucun lien.
Aucun but.
Vraiment, c'est comme un livre pour rien. Donc, moi, je considère qu'une duologie, ça aurait fait l'affaire. Je sais pas si Del Rey avait des livres à boucher, parce qu'il était supposé déjà avoir 21 livres depuis le début de la série, ça a été coupé à 19.
C'est ça, ils ont coupé déjà un livre à Michael A. Stackpole qui aurait probablement dû lui laisser.
C'est ça, plus la série de Michael Friedman qu'il a pas écrit, elle a été cancellée. Donc, ils ont peut-être voulu faire du rattrapage, ils vont écrire 3 livres, mais c'était peut-être pas nécessairement la meilleure idée. Moi, j'aurais dit qu'on aurait dû se concentrer juste sur la recherche de Zonama Sekot, comme faire une duologie d'enquête.
Okay.
Tu fais une enquête sur...
Mais je trouve que c'est quand même bien qu'ils nous ramènent un peu justement avec Anne Playa, parce que comme ils disaient, c'est eux-mêmes qui ont pris la décision de ramener un peu du blabla de Anne Playa dans les entrevues précédentes.
Mm-hmm.
Et puis, ça faisait longtemps justement qu'on n'en avait pas entendu parler de tout ça. Puis, je trouve que c'est pas mauvais, parce que quand on regarde l'univers étendu en tant que tel, on passe de Return of the Jedi à Anne et Leia qui viennent d'avoir des enfants. C'est arrivé quand?
Dans comme, Tatooine Ghost.
Comme disait l'une de nos amies, c'est arrivé quand ça? Quand est-ce qu'ils ont eu le temps de créer ces enfants?
Il y a quasiment une scène dans Tatooine Ghost que tu pourrais dire que c'est là que ça s'est fait.
Bon, mais ils viennent de l'écrire. Enfin.
Ouais.
Et voilà, justement, dans l'univers étendu. Mais tu sais, justement, c'est ça, c'est parce qu'on en a perdu des bouts automne dans l'univers étendu là, depuis le début de la reprise.
Mm-hmm. Ben, ça peut être Tatooine Ghost ou dans Courtship of Princess Leia ou... Non, ça serait peut-être dans... Ouais, c'est ça.
Il peut y en avoir plusieurs.
Ouais, c'est ça. Anyway.
C'est parce que un quickie, ça prend pas trop.
Ouais, c'est parce que c'est ça. Dans Tatooine Ghost, c'est une mention. Bon, je sais pas, c'est Anne. Anne, il est en train de se, il venait juste d'être guéri un peu de son déshydratation, puis il dit bon, Léa va le rejoindre dans son lit.
Ça peut lui faire un petit massage.
Ouais, c'est ça. Ok, bon, qu'est-ce que ça va être le futur, le rôle de Zonoma Sekot pour la suite, qu'est-ce que ça peut être? J'ai dit bon, ça peut être un super weapon. Luke empêche Zonoma Sekot d'aller tuer le Coral Skipper qui se sauve parce qu'il a peur que Zonoma Sekot tombe dans le dark side, dans le côté obscur. Tu verrais ça, la planète côté obscur, Zonoma Sekot égale Death Star.
Qui tire partout, sur toute casque à bouche.
Ah, une planète qui a des Yuuzhan Vong, on la tire. Une autre planète qui a des Yuuzhan Vong, on la tire. Tu verrais-tu, fait donc.
Ça serait drôle.
Ça pourrait être une possibilité. Zonoma Sekot pourrait être, selon moi, qu'est-ce que je crois que ça va être. Zonoma Sekot va devenir la planète habitable pour les Yuuzhan Vong qui va rester dans la galaxie. C'est une planète qui marche complètement avec la nature, il n'y a rien de technologique. Donc les Yuuzhan Vong ou les hérétiques qui vont rester, qui ne seront pas morts ou peu importe, vont probablement aller habiter sur cette planète-là. Peut-être que toutes les Yuuzhan Vong sont capables de je sais pas la grosseur de la planète, mais c'est peut-être possible aussi.
Peut-être toutes les Yuuzhan Vong qui vont rester comme ça.
Ouais,
je pense que ça a plus de sens.
Exactement. Ensuite, peut-être un moyen de transport qui va aider les Yuuzhan Vong à quitter la galaxie. La planète est capable de se déplacer, peut-être qu'ils vont dire embarquer, puis on va aller trouver la vraie terre promise. Ils vont sûrement voir clairement que la prophétie, bon, c'était peut-être pas vraiment cette galaxie-là. Et puis, ils ont dit, bon, ben, embarquer, puis on va aller essayer de la trouver.
On va faire un tour ailleurs, voir si on y est.
Puis vous allez être sur une belle planète pendant ce temps-là.
Ah.
Ensuite. Ben c'est ça, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je viens de dire, on verra, parce que Jason dit qu'il y a une autre solution, donc, c'est quoi la solution, c'est peut-être pas Zonoma Sekot non plus, là.
Comme on dit,
elle est peut-être pas aussi forte qu'on le mentionne, il y a le fait qu'ils n'ont pas fait la description de comment Zonoma Sekot s'est défendu contre les Yuuzhan Vong, ils ont tout simplement fait perdre conscience à nos héros. Ils se sont réveillés quasiment pratiquement en atterrissant sur Zonoma Sekot. On n'a pas vu comment elle s'est défendue contre
les Yuuzhan Vong.
Mais il me semble qu'il mentionne dans le roman qu'elle s'est défendue difficilement. Puis il y avait juste l'équivalent de deux Star Destroyer Yuuzhan Vong, disons. Elle se serait défendue difficilement contre ça. Fait que si c'est difficilement, elle n'est peut-être pas aussi puissante qu'on pense. Elle a peut-être un autre rôle, justement. On sait pas c'est quoi. Est-ce qu'elle est capable de voir les Yuuzhan Vong dans la force?
On sait que les Jedi ont énormément avancé depuis le début de la série. Mm-hmm. Ça va peut-être faire partie d'une autre des étapes d'avancement des Jedi.
Bon, les auteurs ont fait un bon effort de recherche dans toute la série. Beaucoup de détails sur les différents romans, beaucoup de caméos, des références, etc. aux Yuuzhan Vong et aux autres romans. C'est très intéressant. Ils ont fait une bonne job de ce côté-là quand même. Bon, le questionnement sur le nom de la série, je l'expliquais un peu. On voit bien que les hérétiques dans la trilogie, c'est mineur, tu sais, on le voit, mais c'est pas comme si la majorité du roman était concentrée sur Nomador en train de former les hérétiques. Donc pour ça. Ensuite, bon, le futur de Tahiri, que comme j'ai mentionné à Sean, j'ai inscrit, je la verrais bien comme le futur leader des hérétiques. Elle est Jedi, ce que les hérétiques vénèrent, et puis elle est Yuuzhan Vong en même temps. Ce serait comme le dieu devenu réalité pour les hérétiques, dans le fond.
Hmm.
Ça serait intéressant, et puis elle pourrait mener elle pourrait être même la première ministre de Zonoma Sekot avec tous les Yuuzhan Vong sur la planète, whatever, là, j'invente des affaires,
C'est une idée.
C'est une idée.
C'est une option.
Exactement. J'ai mentionné le Nouvel Ordre Jedi qui est le nom de la série. Le Nouvel Ordre Jedi, ça pourrait être justement les hérétiques avec Tahiri comme leader. C'est un Nouvel Ordre Jedi sans que ce soit des Jedi en tant que tel, mais je sais pas si tu comprends un peu le
je comprends ce que tu veux
concept
dire,
un peu là,
c'est pas nécessairement des Jedi, mais comme le nouvel ordre de Palpatine, qui était l'Empire. C'est comment dire, c'est juste un nom. Le nouvel ordre Jedi, bon, c'est un ordre dont la religion c'est les Jedi.
Qui sait?
C'est pas
impossible, ça fait que c'est même une très bonne idée de.
C'est une
de
suggestion
de
complètement. Alors voilà, c'était mes commentaires. C'était sur quoi, toi? C'était sur le futur de Zona Mossecote que tu voulais parler? T'avais une idée? Que j'ai dit, on va revenir là-dessus quand je vais en parler?
Ben, c'est ça, par rapport justement au fait que c'est une planète Jedi en tant que telle.
Okay.
Bref, que c'est le cerveau, le corps de la planète pourrait être ce que Odan Ur a déjà été pour la planète Ozus dans les Tales of the Jedi. Bref, c'est un Jedi ou une Jedi très puissante qui s'est intégrée à la planète et qui maintenant vit dans la planète.
Moi, qu'est-ce que je me demande? Zona Mossecote est très forte dans la force. Est-ce qu'elle peut aller communiquer avec le World Brain de Yuuzhan'Thar qui est Coruscant? Puis,
qui a un autre point dealing,
que les deux se deal quelque chose ensemble, ou je sais pas, peut-être que Zona Mossecote va remplacer Coruscant comme la capitale, on ne sait pas, ça peut être bien des choses. D'après moi, Mon Calamari va rester la capitale. D'après moi, Coruscant va rester avant qu'il reconstruise ça va être épouvantablement long, là. C'est pratiquement.
Yuuzhan'Thar va rester là pendant un petit bout.
C'est ça. Même si les bâtiments sont encore là, c'est en train de se désagréger. Il y a du fungus, comment tu appelles ça, de la mousse, là. Des bactéries, ou je sais pas trop.
La moisissure.
La moisissure partout sur les bâtiments, etc. Donc, il y a beaucoup de bâtiments qui sont tombés aussi. Donc, avant de reconstruire tout ça, des kilomètres de hauteur, d'après moi, Coruscant va peut-être rester là, comme elle est. Puis, c'est à voir.
Exactement. Non, je suis d'accord avec toi, c'est ça. Mais non, c'est ça, j'aime bien l'idée que ça, que tu pourrais justement discuter ensemble. J'aime bien l'idée du fait que ça pourrait être un esprit d'un ou d'une autre Jedi dans le passé qui serait intégré à la planète pour survivre, même d'un Sith, comme on a vu Exar Kun le faire sur Yavin. Sur Yavin 4.
Mais
on peut aussi penser que les Jedi vont avoir besoin d'une nouvelle planète pour faire leur pour bâtir leur académie. Pour rebâtir l'académie.
Ça peut être un peu n'importe où. Présentement, il me semble que les jeunes Jedi sont à un endroit spécifique.
Probablement à Noat, quelque chose comme ça.
Non. Ils sont dans le mât.
C'est ça.
Ils ont été mis dans la base là.
Dans la gueule.
Exactement.
Dans la gueule des trous noirs.
Exactement. Fait qu'ils sont introuvables dans le fond. Et puis, c'est quoi l'autre chose que j'ai vu en tête? Oh merde. Tu parlais du Dark Side. Sur Coruscant, il y a un puits de Dark Side. Et puis, j'en avais déjà parlé. Et le Temple Jedi était construit dessus. Pourquoi qu'on construit ça là? On ne sait pas. Ils disent qu'ils savent. Ils savent. Ils peuvent pas le savoir qu'ils sont sur une super source de Dark Side. Donc. Mais le Temple Jedi, c'est dans Traitor ou dans Destiny's Wheel, je me souviens.
Si ça se trouve, dans Traitor, si je ne me trompe pas, mais si ça se trouve, c'est justement pour protéger le restant de l'univers de cette force-là.
En mettant des Jedi par-dessus.
En mettant des Jedi par-dessus pour qu'ils puissent shielder le.
Ouais, peut-être. Ouais. Grosse spéculation encore, là. On délire un petit peu ici, là.
Pas trop.
Bon, on a-tu d'autres choses à dire sur Reunion? Je pense que c'est le plus gros débat qu'on a eu depuis un bout pour un roman.
Exact.
Ça n'a pas de bon sens. Faudrait que tu lises les deux prochains, là, pour qu'on puisse continuer à faire ça. T'as même pas lu le livre, puis t'as réussi quand même à en parler pas mal. Imagine si tu l'as lu.
C'est impressionnant. Mais non, inquiète-toi pas, je compte bien lire les deux derniers livres de la série, puis je les conseille à tout le monde, parce que ça va être extrêmement intéressant. C'est The Final Prophecy et The Unifying Force.
Oui.
Alors,
30 septembre pour le prochain, et puis probablement
4 novembre
le dernier.
Donc, il sort le 4 novembre, et peut-être, on veut pas l'annoncer encore, mais on va peut-être réussir à avoir James Luceno sur nos ondes en direct de Montréal. Peut-être. En direct.
Les pourcentages sont pas élevés présentement, donc on n'ira pas plus loin que ça.
Alors.
Peut-être avec un P majuscule.
Ouais, c'est ça.
Petite pause musicale avant le notre superbe
chronique événement. Ça fait combien de temps? Oh, il est 11h.
Je sais. Mais faut juste que je dise quelque chose avant. Tairi Rina, Pain Loving Lightsaber Using Freak.
En français?
Une amoureuse de la douleur qui utilise un sabre laser. Maudite folle.
Il me semble. Ah!
Ça, elle rouvre son sabre laser puis elle se brûle le bras. Ah! Elle se fait des nouveaux tatous avec son sabre laser. Qui sait?
Donc, petite pause musicale. Et puis on revient après ça pour conclure avec la chronique événement.
Yeah.
destiné.
Bonjour, bienvenue.
Bonjour à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. Bon.
Faut qu'on se mette une petite lumière retour en ondes.
Ok. La chronique événement maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la communauté Star Wars près de chez vous?
Alors, on va commencer par parler outre-mer énormément. Puis, on va
terminer avec ce qui se passe bientôt pour nous.
Avec bientôt pour nous, exactement. Alors, on parle du 21 septembre, une journée porte ouverte qui va avoir lieu au Bourget, au Musée de l'air et de l'espace du Bourget. Alors, la LCF va être présente.
C'est à Paris, donc c'est à Bourget.
Ça, c'est à Bourget.
C'est en France.
C'est en France. C'est en France, quelque part sur la map, sur la carte française. Grand événement FACTS, le FAX, le 11 et 12 octobre à Jean, en Belgique. Une grosse convention. Les gens de Fan Wars vont être là, les gens de la 501st Belgian Garrison vont être là. Probablement les autres gens de nos amis.
La LCF sûrement va être là aussi.
La LCF va être présente, exactement. Si je regarde, le Collectors Rendez-vous, 5e édition, courant d'octobre.
La convention de Arkham, dans le fond.
À Paris, exactement.
De la boutique Arkham.
Et voilà. Et ben d'ailleurs,
c'est les invités sont, je crois que c'est Darth Maul.
C'est à Paris.
T'as David Prowse. Ben, Darth Maul.
Là, je pense que tu fais confusion avec la convention qui a lieu présentement à Toronto.
Non, mais les mêmes
là-bas.
Se retrouvent Ray Park, David Prowse, puis je crois qu'il y a un
Billy Dee Williams.
Non, c'est un. C'est pas Star Wars, c'est un qui faisait un des nazis dans Indiana Jones.
Ah, d'accord.
Je crois.
Alors, remarque que nous autres, on va recevoir Michael Sheard, fait que pas mieux. donc, Collectors Rendez-vous 5e édition courant d'octobre à Paris, justement. L'Halloween chez Disney, organisé par la LCF, entre autres.
Et Star Wars Universe.
Et Star Wars Universe.com. Alors, ça va avoir lieu le vendredi 31 octobre 2002, car c'est la seule soirée d'année où les costumes y sont autorisés. Apparemment, il y avait au moins une centaine de personnes qui étaient présentes
l'an dernier.
Et c'était une soirée inoubliable. Alors, on parle du parc Euro Disneyland Paris, RERA, Marne-la-Vallée. 30 octobre à 20h devant le parc. Et ils invitent tout le monde à venir manger, même un petit peu avant, vers 18h, trouver un restaurant qui aura lieu dans
un fast-food. Fast-food.
Un drive-thru. Alors, la Belgian Garrison, les 27 et 28 septembre 2003, à Passion, Charleroi, Belgique. Salon international des collectionneurs, le 12 et 13 octobre 2003, à la FAX, comme nos amis de la LCF. Et la French Garrison sera au Collecteurs Rendez-vous de Paris, la 5e convention de ce genre, en 5e édition de ce genre. Outre-mer, 30-31 août, semaine prochaine.
Ouais.
Superbe rencontre, 7 ans à Paris, à Euro Disney. Alors,
samedi, c'est à Paris et dimanche,
samedi
c'est
à Paris, dimanche à Euro Disney. Mon erreur, je crois qu'ils se rencontrent à la FNAC. Le samedi.
J'ai pas
je vous conseille fortement de passer sur les forums de sitelan.net pour aller voir dans la section rencontres et événements, rencontres à Paris 30 et 31 août. Il y a tous les détails qui sont là, disponibles pour vous. Et on va finir avec de notre côté de l'océan.
Alors, Québec.
En fin de semaine, il y a évidemment la fameuse SFX à Toronto. Alors, ceux qui n'ont rien à faire demain et lundi, je crois que ça continue jusqu'à mardi, vous pouvez toujours aller faire un tour, rencontrer Ray Park et David Prowse à Toronto lors de la convention SFX. Je vous avertis, c'est un pet budget, comme on les appelle.
Très dispendieux.
C'est une convention qu'il faut payer pour rentrer dans la chambre où il y a les acteurs. Payer pour les autographes, payer pour la photographie, presque payer pour sortir de la chambre. C'est une véritable
boucle. Je n'ai plus d'argent, je suis pris dans l'hôtel.
Exactement. Je vous dirais peut-être d'attendre parce que la semaine suivant, le 8 novembre, je crois, les alentours du 14 novembre, du 14 au 16 novembre, il va y avoir SFX Montréal.
Ah, les mêmes invités, non?
Les invités sont pas encore déterminés, mais ça se peut.
qu'on prenne encore les mêmes invités. Bref, ça reste à déterminer. On est en contact.
Intéressant de savoir le plus rapidement possible.
Exactement, on est en contact avec ces gens-là et on attend d'avoir leur réponse. Malheureusement, ce sont des lambineux. Il n'y en a pas qu'au Québec. Alors, et bien sûr, il va y avoir la semaine prochaine, alors le fameux Dragon Con à Atlanta, où on va peut-être enfin savoir cet été le lieu de rencontre de la prochaine Star Wars Celebration. Peut-être, on l'espère, on le voudrait, mais c'est pas certain. Alors, j'ai récemment parlé avec un de nos grands amis chez Lucasfilm, M. Steve Sansweet, qui vient tout juste de repartir pour l'Australie. En général, c'est lui qui fait les conventions, alors je ne sais pas s'il va être présent pour Dragon Con. Par contre, si vous êtes intéressé, je vous conseille de passer par les forums de fanforce.net dans la catégorie de conventions. Avec des événements FanForce, il y a un petit souper qui est organisé avec des petits parties, ça va être très drôle, et il y a une liste d'activités super intéressante qui va être là. Et si ça vous tente pas de perdre trop d'argent en allant aux États-Unis,
bien,
accompagnez-nous à Québec City, notre superbe capitale nationale. La capitale site qui a...
D'où Citlan origine,
Les administrateurs courants du site ont reçu leur éducation.
en effet.
Alors, venez avec nous. Alors, c'est les 30 et 31 août prochains, samedi et dimanche prochain. Bref, un événement, une fin de semaine Star Wars qui aura lieu dans la grande région de Québec.
L'activité de samedi après-midi n'est pas déterminée encore.
C'est ça.
Il va y avoir un point de rendez-vous indéterminé, probablement l'imaginaire à la place Laurier, la boutique imaginaire. L'activité après le dîner n'est pas déterminée, mais la soirée, le souper va être probablement un buffet, et puis ensuite on risque d'aller soit au cinéma, suivi d'aller prendre une bière sur la grande allée pour finir la soirée, et peut-être plus tard durant la nuit à l'hôtel aussi, c'est à voir encore.
Qui sait.
Exactement. Pour dimanche, qu'est-ce qui a été suggéré? Probablement que c'est cela qu'on va faire. Il y a un spectacle aérien à Québec, donc on va probablement...
Avec les Snowbirds, je crois?
Non, c'est les l'armée américaine, les F-16, c'est pas les Blue Angels, c'est les... Merde!
Non.
c'est des F-16 blancs.
Les F-16 américains. D'accord.
Ouais, mais c'est qu'il y a une formation. Ça a un nom, c'est quoi? Oh merde.
Death Angels. Alors, pendant que mon superbe producteur de cette émission de radio internet, starwarsendirect.com, Lunatique, est en train de vérifier sur Citlan.net justement le nom qu'il recherche.
Non, moi, il est sur Citlan, en effet, ça va être plus rapide.
Alors, c'est ça. C'est les 30 et 31 août prochains. Alors, pour ceux qui partiraient de Montréal, on a un petit système de lift pour aller à Québec. On a plusieurs voitures. Alors, si ça vous intéresse, venez sur le forum et faites-nous savoir que vous désirez venir avec nous à Québec City pour la fin de semaine Citlan. Et on va vous arranger un lift pour vous rendre jusque là-bas. Évidemment. Pour ce qui est de la résidence sur place à Québec, si vous avez de la famille, on vous invite à les contacter. Sinon, nous, on prévoit probablement partager une chambre d'hôtel, ce qui va être très drôle. Alors, on parle des Thunderbirds?
Exactement. Et non, ce n'est pas les Sentinelles de l'air, mais
avec
les Thunderbirds.
Les marionnettes avec les petites, avec les petites ficelles au bras. C'est bien, d'accord. Alors,
that's it.
Je crois que c'est bien le tout.
Bon, à quand la prochaine émission? On l'a pas prévu, on va discuter de ça immédiatement après l'émission. Voilà. Ça risque d'être la fin de semaine qui suit la sortie qu'on vient de discuter.
La sortie cette année, donc dans 2 semaines.
Exactement. Mais ce n'est pas certain, tout dépendant de la préparation d'une des surprises qu'on prépare pour... tout va dépendre de cela.
Il y a quelque chose de gros qui s'en vient sur StarWarsOnDirect.com. On peut pas encore vous en parler, malheureusement.
Il y en a quelques-uns qui le savent, mais on verra. Et à cette émission, la prochaine, il devrait avoir notre entrevue avec Mike Gallo, qu'on a faite la semaine dernière, je crois.
Exactement.
En pré-enregistré.
le producteur de Knights of the Old Republic.
Exactement.
Qui m'a d'ailleurs bouche bée, parce que j'avais une question piège pour lui, et puis il y a très bien répondu.
Ouais.
Ça me fait suer.
Donc, on...
Mais je dois avouer ma défaite.
Donc, on va vous laisser là-dessus. Surveillez Star Wars en direct, swendirect.com, pour savoir quand on va faire la prochaine émission. Désolé encore pour les problèmes techniques que l'on a eu aujourd'hui et les problèmes d'horaire aussi que
effectivement.
Je m'étais trompé de plage horaire. Donc, l'émission a débuté une heure plus tôt que prévu. Donc, désolé à ceux qui auraient manqué l'émission. Vous êtes sûrement en train de l'écouter en reprise si vous entendez ma voix présentement. Donc.
Exactement. Alors, on vous laisse sur une superbe pièce de John Williams qui est Les funérailles de Darth Vader dans Return of the Jedi. Alors, nous vous souhaitons une très belle fin de journée, fin de soirée, et on vous souhaite à la prochaine.
À la prochaine, tout le monde.
Vous étiez à l'écoute de Star Wars en direct. Surveillez StarWarsOnDirect.com pour connaître la date de la prochaine émission. Citlan.net, c'est les toutes dernières actualités sur l'univers Star Wars. Plusieurs dossiers sur la saga. Des événements et rencontres entre fans. Un énorme forum de discussion. Une radio web à contenu 100% Star Wars, incluant une ligne ouverte en direct. Plusieurs concours ouverts au Québec et en Europe. Et bien plus encore. Ne résistez pas à la tentation du côté obscur. Cliquez sur le www.citlan.net.
Connexion Plus, l'endroit pour la vente, l'échange et le rachat de produits dérivés de Star Wars. Venez nous rencontrer sur la rive sud de Montréal, au 163 Chemin Saint-Jean, à La Prairie. Connexion Plus, au 450-659-3411.
Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Nul besoin de traverser les ponts pour vous procurer vos produits dérivés de Star Wars. Priorité collection à tout ce que vous cherchez et bien plus encore. Venez découvrir nos nouveaux locaux sur la rive sud de Montréal au 2189 Chemin Chambly à Longueuil. Chez Priorité Collection, notre priorité est la vôtre. 450-651-8482.
Red 6, do you see Red 5? The heavy fire is on. Red 5, where are you?
I
I can't shake it.
Hold tight.
Are you all right? I got a little cook, but I'm okay.
I got a problem here. Jack, I can hold it. This is it, boy. They're in position.
They're starting our attack run.
Switch all power to front deflection screen. Switch all power to front deflection screen.
Say about 20 guns, some on the surface, some on the tower.
Computer one, getting a signal. Guns, they've stopped. Stabilize your rear deflectors. Watch for enemy fighters.
They're coming in. 3 marks and 2 tips.
Stay on target.
We're too close.
Stay on target.
Push it up.
I copy, Gold Leader.
And brush behind.
Rebel base, 1 minute to close it.
We're going in, full throttle.
Now to keep those fighters up our back.
Right with you, boss.
Luke, at that speed, would we be able to pull out in time?
It's just like Beggar's Canyon back home.
I can't stay with you.
Get clear, Wes. You can't do any more good back there.
Sorry.
R2, that stabilizer is broken loose again. See if we can't lock it down.
You're all clear, kid. Now let's blow this thing and go home.
Luke, trust your feet.
Great shot, kid. That was one in a million.
Remember, the Force will be with you. Always.
www.signal.net